Avant de démarrer l'épisode, petit instant pub.
Chez Parlons Péloche, et on l'a déjà dit dans l'épisode précédent, on aime beaucoup la plateforme de VOD Outbuster, celle qui diffuse les films peu ou pas exploités dans les salles obscures françaises. Alors, spoiler alerte, enfin, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui des films de procès. Et il se trouve qu'Outbuster propose dans son catalogue deux excellents films de procès.
Jurez de dire la vérité.
Tout d'abord, mon coup de cœur, Unbowed, de Kim Kyung-ho, qui raconte l'histoire d'un professeur renvoyé de son lycée pour avoir contesté la validité d'une question de mathématiques de l'examen d'entrée. Du coup, il porte plainte contre son lycée, il est débouté, alors il va chercher une arbalète et... Bah la suite, c'est sur Outbuster. Mais aussi le film belge, The Verdict, où là, cette fois, c'est un père de famille qui voit sa femme et son enfant tués par un voleur.
Votre juge, mon client respectueux des lois et confiant en la juridiction de son pays.
Mais à cause d'un vice juridique, le voleur est libéré. Du coup, bah le père de famille se met en mode Liam Neeson dans Taken.
J'ignore qui vous êtes.
Il prend un flingue et... Bah la suite, là aussi, c'est sur Outbuster. Alors, si vous voulez voir l'un de ces deux films, ou même les deux films, ou même plein d'autres pépites de ce genre, eh bien foncez sur outbuster.com. Le lien est dans la description du podcast. C'est bon ? On peut démarrer l'épisode ? Bon, on est parti ! Vous avez déclaré le 16 octobre 2017 avoir un goût prononcé pour le podcast audio. De plus, vous avez affirmé à l'occasion d'un rassemblement entre amis le 17 janvier 2018 avoir une affinité pour le médium cinéma. Alors il apparaît, au vu de ces preuves accablantes, et mesdames, messieurs les jurés, vous m'en êtes témoins, que vous aimerez probablement ce numéro de Parlons Péloche. Vous l'avez compris, dans Parlons Péloche, aujourd'hui, il sera question des films de procès. Le film de procès, Trial Movie en anglais, ou film de prétoire, Courtroom Drama en anglais, est un genre cinématographique qui consiste à traiter d'affaires judiciaires fictives ou réelles, dont le récit culmine généralement avec la scène du procès. Il s'agit d'un genre de fiction dramatique sur le thème général de l'application
Objection,
de la justice,
votre honneur.
Tournant souvent autour d'une injustice entre deux parties. Mais ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. De notre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir ce que nous attendons d'un film de procès. Nous nous demanderons également ce qu'est devenu ce genre en donnant nos impressions sur trois films de procès sortis sur ces dernières années. Et c'est après avoir parlé de nos références qu'Antoine assurera sa propre défense dans un procès l'accusant d'être à la tête d'une chronique pas ouf.
Voilà. Je plaide coupable.
Mais pour parler des films de procès autour de la table, vous le connaissez sûrement, car la Cour de cassation de Lyon, en vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, l'a déclaré comme étant... trop mignon. C'est Tristan. Bonsoir Tristan.
Bonsoir Thomas, merci beaucoup. Je plaide coupable.
Vous le connaissez sûrement car dans les films de procès inspirés des faits réels les plus sordides, bah souvent ces faits réels, c'est sa propre vie. C'est Antoine. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Vous le connaissez sûrement car sa copine a attaqué Parlons Péloche en justice pour, je cite, nous avoir niqué des soirées cinoches pour regarder les films de merde que tu choisis dans la programmation de l'émission Thomas. C'est David. Bonsoir David.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Et tu peux d'ailleurs passer bonsoir à Laurie aussi. Hein.
On se retrouve
dans 15 jours au tribunal de Nanterre pour statuer sur tout ça. Et enfin, vous la connaissez sûrement car elle a déclaré le 7 novembre 1984 qu'elle n'était pas dans la voiture avec Bernard. C'est Béa. Bonsoir Béa.
Bonsoir Thomas.
Et bien maintenant que j'ai fait mon petit tour de table, la cour se lève pour accueillir la première séquence de l'émission, le tas de beaux yeux, tu sais. Dans le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce qu'est un film de procès à travers les yeux de nos chroniqueurs et isoler les mots-clés propres à ce style cinématographique pour savoir quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous pousse à aller voir un film de procès au cinéma. Je l'ai dit dans l'introduction, le film de procès est une fiction dramatique décrivant les rouages de la justice, le plus souvent autour d'une injustice. Mais pour vous, autour de la table, qu'est-ce qui symbolise ce genre ? Alors, il va falloir commencer par vous expliquer que là, on est à distance, parce que confinement oblige, on a dû faire ça. On a essayé de le faire le plus légalement possible, c'est-à-dire que tous les micros, tout le matos est chez moi. Et du coup, il y a pas mal de gens de l'équipe qui ont dû investir à peu près 120 balles dans un micro pour vous faire ça.
150.
Ouais. Alors, si dans les prochaines semaines, vous voyez qu'on ouvre un Tipeee, c'est parce qu'on est en l'air gars, les gars. Enfin, faut pas chercher plus loin. Qu'est-ce que vous attendez d'un film de ce genre? Je pense donner la parole à la défense. D'abord, je pense à Béa, parce que Béa, ça fait à peu près un siècle, alors que Parlons Péloche existe depuis 2 ans et demi, que tu déclares vouloir faire le film de procès. Béa, c'est un genre que tu chéris.
Mais oui, Béa. Mais oui, en fait.
N'oubliez pas que vous êtes sous serment, Béatrice.
Oui, je dirais la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. En fait, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre, en fait. Pour vous dire, j'aime bien même quand c'est mauvais. J'aime les enquêtes, j'aime les déductions, les indices, les plaidoiries, les interrogatoires, les réparties, tout ça. Et il y a toujours cette confrontation avec le bien, le mal. Et même quand c'est mauvais, même quand il y a un mauvais scénario, bah, j'adore cette ambiance. Pareil, hein, là on parle cinéma, mais les séries c'est pareil, j'en ai vu plein. Et puis, j'aime bien quand il y a des erreurs judiciaires aussi. Alors, petite anecdote, moi j'ai voulu être avocate pendant très longtemps, mais ouais. Je voulais, enfin jusqu'à ce que je comprenne que je ne pourrais pas défendre que des innocents. Moi je voulais défendre les personnes jugées à tort et aller essayer de trouver... voilà, et c'était vraiment mon truc. Ouais, mais je voulais du costaud, quoi. Je voulais des gens accusés de d'avoir tué quelqu'un et tout, mais qui sont innocents en fait et qu'il fallait défendre. Bon, j'ai vite compris que c'était pour passer à l'histoire.
Je pense que 99% du temps, ils sont coupables.
Donc...
Mais heureusement, elle s'est bien rattrapée sur le barreau.
Il y a eu un vieux blanc.
Allez, je vois de la distance pour faire ce genre de blague.
En tout cas, on va avoir un procès, hein, certainement sur Twitter, hein, parce que c'est là que ça se passe aujourd'hui, les procès. Merci David. Et on en parlera aujourd'hui, c'est pas dans la sélection, mais du documentaire de Raymond Depardon.
Objection, votre honneur.
On en parlera aujourd'hui parce que on voit justement dans ce documentaire des gens, tu te dis, bah alors là, mais alors pour me défendre ça, mais tu vas galérer mon petit avocat. Et l'avocat derrière qui fait ce qu'il peut. Et du coup, c'est aussi un côté intéressant de la loi, c'est que l'avocat bah, doit regarder tout droit pour la défense de son client, même quand parfois
non,
son client...
Même quand les gens sont coupables, essayer de comprendre le contexte. Alors c'est pas bien de dire ça parce que là ça surtout en ce moment où justement on s'en fout du contexte, les faits. Mais voilà, moi j'ai toujours trouvé que c'était très intéressant et vraiment depuis toute petite c'est en tout cas le métier de l'avocat est quelque chose qui me passionne. Et aussi le fait de quelque chose qui me fascine, c'est alors là plus peut-être sur tout ce qu'on voit sur dans les films américains ou les séries américaines, quand il y a des jurys, je me dis comment on peut décider de la vie de quelqu'un. Et ça c'est un truc qui me fascine et qui me passionne, non. Qui m'interroge. Alors
objection.
C'est pas pour ça que je voudrais être justement j'aimerais sans doute pas être jurée quelque part parce que être jurée ça doit être juste horrible de décider pour la vie de quelqu'un, encore une fois le destin de quelqu'un. Wow.
Être accusé d'avoir tué quelqu'un, ça doit pas être ouf non plus.
Oui, non, mais enfin voilà, c'est...
Ah, il faut un bon avocat.
Bon, on s'en remet, hein.
Ouais. Enfin voilà, en tout cas, merci d'avoir cédé à mes avances et d'avoir fait cette
thématique. C'est pas la première fois, Béatrice.
Oui.
Alors, Béatrice, on va donner la parole à quelqu'un qui a fréquenté pas mal de fois dans sa vie les tribunaux, David Marmignon, pour des différentes affaires de mœurs, ça on le sait bien. David, qu'est-ce que toi tu attends de ce genre ?
De Black Salas, quoi, mais...
Dada la saumure.
Parce que Béa disait, c'est les faits. David, c'est plutôt les fesses.
Alors, en plus, j'essaye de pas trop rigoler, parce que je viens de recevoir un message qui me dit, fais attention quand tu te marres, tu réveilles Arthur. Ah,
c'est encore Laurie, chier, la fameuse, celle qui nous traîne en justice, déjà.
Alors, moi, j'adore ça, les films dossiers. Les films de procès, les films judiciaires... J'adore ça. Moi, il me faut des avocats qui s'enferment dans des caves pour éplucher des caisses de documents. Il me faut des mecs qui me disent « Ne me mentez pas, ils vont déterrer votre passé, je dois tout savoir !» Ça, c'est génial, tu vois. Et c'est souvent ce que j'adore dans le Cinoche, des gens ordinaires sous une pression extraordinaire. Et tu suis vraiment l'enfer qu'ils vivent à cause de cette condamnation. Et c'est souvent l'occasion de grandes et belles histoires humanistes où des gens...
Mais surtout, ils ont le barreau, hein. Le mec, il nous fait du Verlaine et juste avant, il fait une blague. Des grosses têtes, génération 1970, c'est ça, David Marmignon. C'est tout le contraste de la personne.
C'est pour ça que si un jour on doit me défendre, ça sera vraiment la galère. Entre ce que je dis et ce que je dis pour de faux, tu vois, c'est compliqué.
C'est clair.
Mais moi qui suis une spécialiste du barreau, David, comme tu l'as dit, voilà, tu peux compter sur moi.
C'est un mix entre Arthur Rimbaud et Jean-Marie Bigard. Ouais, c'est ça.
Alors excuse-nous David, c'était magnifique ce que tu disais, mais j'ai voulu te couper parce que voilà, c'est compliqué, hein.
Ben oui, non mais c'est pas grave, après c'est le but de se couper la parole. On est dans une émission spéciale film de procès et il faut qu'on se balance des objections dans la gueule, sinon c'est pas marrant.
C'est pas faux, c'est pas faux.
Mais donc voilà, c'est souvent l'occasion de grandes et belles histoires humanistes où des gens vont se dépasser au service des autres ou faire triompher la vérité. Et en plus, si t'ajoutes à ça que c'est souvent des histoires vraies, moi, c'est tout ce qui me fait marcher au ciné. Et notamment dans la sélection de ce soir, c'est des films qui y vont avec les gros sabots parfois. Mais moi, vas-y, fais-moi rêver, mets-moi des ralentis, mets-moi de la grande musique si c'est des histoires vraies et qu'à la fin, on voit les vraies personnes. J'adore ça.
Ouais, c'est la cerise sur le cajon, comme on dit. Antoine, c'est un peu avec tendresse que je te donne le bâton de parole, Antoine, parce que je me dis, depuis le début de l'aventure Parlons Péloche, t'aurais pu m'attaquer en justice un nombre de fois assez incalculable. Du coup, est-ce que ça t'a donné des envies de voir tous ces films?
Non, ça m'a rappelé des souvenirs, surtout. Non. J'aime bien les films de procès aussi. J'aime bien tout le côté théâtral, en fait, de l'endroit, de la pièce, des costumes. Moi, franchement, voir des gens en robe crier sur d'autres gens, ça me fait marrer.
Ça me rappelle ma mère et mon père. Ouais.
Exactement. Il faut rajouter les perruques si c'est en Angleterre.
Ouais.
Ouais, les petites perruques avec les bouclettes, c'est magique. Je trouve ça assez intéressant. Alors, je suis un peu comme vous. Hein. J'aime bien tous les retournements de situation. En fait, on n'a jamais toutes les infos. On apprend en même temps. C'est un peu, on est forcé d'être spectateur en fait, parce que même quand on est dedans, quand on le regarde, on a l'impression que personne sait exactement ce qui se passe. Personne a toutes les cartes et ça se dévoile petit à petit. Et c'est ça qui est passionnant, c'est cette recherche un peu de la vérité qui est derrière. Et est-ce que quelqu'un est innocent, coupable? Que dira-t-on? Après, effectivement, c'est un métier compliqué, Béa. Mais bon, je le pratique depuis longtemps.
On se posera pas mal de questions sur la moralité, hein, et notamment sur le cinéma au centre de cette moralité ce soir. Donc on va terminer ce tour de table par Tristan. Tristan, je sais qu'il s'est régalé sur toute cette dernière semaine à préparer l'émission.
Oui, parce qu'en fait, il y a plein de grands films. Et c'est ça qui est ouf quand tu découvres un peu le genre, c'est que t'as beaucoup, beaucoup de films, beaucoup de très bons films à rattraper, quoi. En fait, il y a souvent des chefs-d'œuvre hein, dans les films de procès. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, et ce qu'on retrouve assez souvent, c'est qu'on est vraiment méfiant en fait vis-à-vis de la justice, alors que la justice est censée être impartiale et être la justice, voilà, et être vraiment à 100%.
Mais l'histoire montre qu'elle l'a pas toujours été.
Ouais, c'est ça. Et puis on a toujours, le film est bien fait à chaque fois. On a peur de l'erreur judiciaire. Et du coup, il faut des très bons avocats, des avocats reconnus qui ont voilà. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y ait du cabotinage d'acteurs, parce que souvent, l'acteur qui joue l'avocat, on fait des caisses.
L'avocat est un cabot de base. Hein.
Ouais, non, mais c'est ça. Après, il y a un vrai plaidoyer, il y a une vraie scène de plaidoyer. Et moi, ce que j'attends, c'est de l'éloquence et de la rhétorique, et ça me plaît. Tu vois, Camélia Jordana dans Le Brio, moi, ça me fout les poils, quoi.
Et il rigole pas, en plus. Je sais pas, parce que j'ai pas vu le film, moi, donc je sais pas si c'est une blague.
Oui,
ou si
non, c'est une semi-blague, ouais.
Ok, ça va. C'est noté, c'est pris comme tel.
Voilà, Thomas, le témoin est à vous.
En tout cas, je me rends compte que je préfère presque faire l'émission sans vous avoir près de moi, finalement. Enfin, c'est juste, l'odeur, c'est
même moi qui passe ma pensée.
Ouais, de tout. Il y a pas mal de choses. Non, je rigole. Vous me manquez énormément. Et là, on fait ce qu'on peut en ce moment. Mais,
mon chat qui miaule et qui dit bonjour aussi.
Ah, on l'a vu passer.
Bonjour, Alfred. Vous pouvez suivre le compte Instagram hein, de Béa qui montre régulièrement.
Je pense que si Alfred était appelé à la gare, Béa aurait des problèmes, je pense.
Oui, c'est clair. Il a dû en voir des saloperies, Béatrice. Alors, on a fait à peu près le tour du sujet. Il y a des dimensions qu'on n'a pas dit parce que, par exemple, c'est un genre principalement américain. Alors, l'Europe commence à s'y mettre, hein, vraiment, mais à la base, c'est vraiment un style qui est plus présent outre-Atlantique. Et,
t'as vraiment fait chute à ton chat ?
Oui, j'ai fait chute à mon chat. Ouais.
Ah oui, c'est compliqué hein, de faire une émission comme ça, mais on fait ce qu'on peut. Ça aborde également des thèmes très sensibles. Tristan a parlé des erreurs judiciaires, c'est un thème récurrent parce qu'on parle souvent d'injustice dans ce genre-là. On parle de la peine de mort, la référence dans le milieu c'est une tuera point. L'erreur judiciaire, on pense à Au nom du père par exemple, ou l'erreur médicale, le verdict pour donner des exemples de films. Et il y a du jargon forcément, tu parlais des plaidoyers, des plaidoiries Tristan, il y a du jargon dont on n'a pas l'habitude mais qui fait presque plaisir à entendre dans un film. On fait rentrer entrer la caméra, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on fait entrer la caméra là où normalement elle ne peut être, parce qu'on le rappelle que à part faire des dessins dans un tribunal, on peut pas faire rentrer une caméra dans un tribunal, donc ça, à part justement Depardon l'a fait dans son documentaire, mais c'est très très rare. Ça peut être des films très engagés, peut-être trop engagés, ça c'est la question qu'on se posera ce soir. Et ensuite, j'ai fini. Donc voilà, on peut passer à la séquence suivante. Votre honneur, on passe au nom de Zeus. On fait ça ?
C'est parti.
Nom de Zeus.
Le nom de Zeus, c'est le moment de l'émission. On fait le tour d'horizon de trois films de procès sortis sur ces deux dernières années. Pour voir ce qu'est devenu ce genre aujourd'hui, on écoute tout de suite ce à quoi nous allons nous intéresser ce soir.
Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour ?
On était amis, meilleurs amis.
Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour ?
C'est bien ça.
C'est lui qui l'a fait ?
Richard Jewell est innocent, c'est un héros.
Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes.
Encore une fois, un peu plus fort.
J'expose les faits.
Vous avez bousillé la vie de cet homme.
Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes.
Deux à la suite.
Mon fils a sauvé la vie de ces gens.
Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes.
Vous avez posé cette bombe ?
Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes.
Je ne sais pas comment je peux te protéger.
Il n'y a pas plus coupable que votre client.
Ils veulent vous exécuter.
Vous êtes prêt à vous battre ?
Je me présente, je suis David Irving. Et je suis prêt à donner $1,000 à quiconque me montrera un document prouvant que l'Holocauste a eu lieu.
Je refuse de débattre avec vous, ni ici, ni maintenant.
Parce que vous ne pouvez pas.
Je ne remets pas en question la liberté d'expression. Mais si nous perdons, il deviendra alors acceptable de dire que l'Holocauste ne s'est jamais produit.
Alors évidemment, vous n'avez rien entendu, hein, mes chers chroniqueurs, parce que voilà, mais au montage, tout le monde vient de l'entendre, mais voilà, pourquoi je raconte tout ça ? Vous l'avez entendu aujourd'hui, il sera question du
bah,
cas
Richard.
Hein. J'ai, ouais, bah, c'est compliqué, parce que j'imagine un type qui nous écoute dans 10 ans et qui se dit, mais de quoi ils nous parlent ces gens ? Bah, le confinement, tu t'en souviens, frère, on était restés plusieurs mois chez nous, c'est à toi que je parle, toi du futur. Vous l'avez entendu aujourd'hui, on revient aujourd'hui, il sera question du cas Richard Jewell, du procès du siècle et de la fille au bracelet. Ça fait beaucoup de monde dans un tribunal, tout ça. On commence donc par le cas... on fait ce qu'on peut hein, pour mettre de l'ambiance ici. On commence donc par le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Vous connaissez Clint Eastwood, ce célèbre acteur américain. En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté. Petits points de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des États-Unis. Voilà le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Je ne dis pas la fin du synopsis parce qu'elle dévoile la fin de l'intrigue et je trouve ça dommage de connaître la fin pour ceux qui connaissent le fait divers. Voilà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours intéressant à découvrir comme ça. Clint Eastwood qui se fait vraiment une jolie vocation en ce moment à essayer de défendre des gens qu'il estime défendables. On en reparlera plus tard. Il l'a fait avec Richard Jewell. Je vais parler du... Donc c'est une histoire vraie. Dans la vraie vie, combien de temps a duré l'enquête sur l'affaire Richard Jewell ? Je vais faire un tour de table, on va commencer par Béa. Dans la vraie vie, ça a duré combien de temps cette enquête ?
2 ans.
2 ans. David ?
20 jours.
20 jours. Antoine ?
6 ans.
Et Tristan ?
3 ans.
On est plus proche avec David, c'est 88 jours l'enquête.
Oh.
C'est pour ça, ça m'intéressait de raconter, d'expliquer ça, parce que dans le film, on ne se rend pas bien compte du temps que ça dure, justement. Et c'est peut-être un choix qu'a fait Eastwood pour juste montrer que le gars avait galéré, tout simplement, et pas vraiment exprimer que ça avait duré, entre guillemets, que 88 jours. Hein. Je pense que être 88 jours, le mec le plus détesté des États-Unis, c'est pas ouf, mais c'est quand même moins que 6 ans. Alors, ma deuxième question, est-ce qu'on a aimé
juste...
ce film ? C'est juste, c'est factuellement, on est pas loin d'une vérité. Hein. Tristan, tu vas commencer. Alors, je te donne la parole, même si je sais que t'es un peu moins emballé que moi sur ce film, Tristan.
Ah, oh, c'est pas que je suis moins emballé. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Après, En fait, je trouve qu'il y a peu de surprises dans ce film. Il y a un peu un manque de rebondissement. Enfin, je me suis un peu ennuyé, quoi. Je trouve que ça va un peu trop dans le pathos. Je trouve qu'on a trop d'empathie pour Richard Jewell, alors que à la base il y a quand même de vrais soupçons sur lui et enfin que tout le monde le pense coupable parce qu'il a le bon profil, quoi. Et après, je sais que en fait le but du film c'est quand même plutôt de taper sur la police et les médias.
Ouais. De réhabiliter un mec, quoi, en gros.
Voilà, ça parle du rôle de l'opinion publique et des médias, en gros, en gros, dans les affaires judiciaires. Et surtout de la rumeur, quoi, et de l'emballement. Mais, en tout cas, sur ces derniers films, je trouve que Clint Eastwood, il fait un peu des films qui se ressemblent, quoi. Enfin, en tout cas, entre Sully, American Sniper et Richard Jewell, J'ai un peu toujours l'impression de voir le même film. L'acteur joue super bien. Sam Rockwell, moi, j'adore. D'ailleurs, on le retrouvera plus tard dans un autre film de la sélection. Mais
La fille au bracelet, pour le dire avant.
il joue Roche Dizem, jeune.
C'est un drôle de choix, mais ça passe plutôt bien à l'image.
Moi, ouais, je pensais que c'était
pas dans un autre film de la sélection.
Non, par contre, je trouve que la scène de la bombe est assez ouf. C'est assez prenant. Tu sais que ça va arriver et en fait t'es surpris, quoi. Elle est vraiment tout en tension, quoi.
Tu disais que Eastwood faisait un peu les mêmes films. En tout cas, il a décidé de creuser un sillon du cinéma américain, celui de relater des histoires, en tout cas des faits divers qui ont à un moment donné heurté les États-Unis. Et comme on le disait, il est dans la réhabilitation totale. En ce moment, Clint Eastwood, c'est un réalisateur. Enfin, si, mais c'est en plus un avocat. C'est ça que je veux dire. C'est un réalisateur, mais en plus un avocat. Et est-ce qu'il a raison de le faire ou pas? Ça, on se posera avant la question tout à l'heure. Béa, est-ce que t'as aimé ce film?
Alors, oui. J'ai passé un bon moment, c'est un bon film, c'est bien réalisé, les acteurs sont très bien. Après, j'ai pas été bluffée au ciné, j'ai pas été bluffée en le revoyant, parce que quelquefois, en revoyant un film, tu le redécouvres et tu dis « Ah, mais oui, en fait, c'était quand même très bien ». Là, je trouve... c'est comme Tristan, en fait. Je trouve qu'il y a pas de surprise. En plus, on voit dès le début que finalement, cette enquête, elle repose sur pas grand-chose, qu'ils ont rien. Et au final, je trouve que le fait divers... et c'est pas un assez grand sujet pour en faire un grand film. Alors, oui, ça montre une injustice. Oui, ça montre comment tu peux passer d'un statut de héros à terroriste, tout à coup, à l'ennemi public numéro 1. Je sais pas, moi je suis restée complètement en dehors du sujet. Encore une fois, en voyant bien que tout le monde joue bien et que c'est bien écrit et encore une fois très bien réalisé, vous parliez de la scène de l'attentat en lui-même, je la trouve très très prenante. Même la scène où à un moment il y a la mère qui prend qui parle à la presse, qui est censé être à un moment, je pense, très fort, vu qu'en plus Clint Eastwood rajoute un peu de musique derrière et tout. Ben je sais pas, ça n'a pas pris. Alors est-ce que c'est parce que quand j'ai vu La Mule, j'avais l'impression de voir le dernier film d'Eastwood et alors du coup je l'ai pris autrement, mais je sais pas. Je suis restée un peu en dehors.
Un peu pantoise.
Ouais, et peut-être que justement, je sais pas si tu l'as dit ou si on dira, mais il n'y a pas de procès en tant que tel. C'est vraiment tout ce qui pourrait amener à un procès. Mais donc, son procès public, en fait. C'est son procès public. Donc, c'est intéressant. Mais voilà, je sais pas. Il m'a manqué quelque chose. Voilà.
Oui, c'est vrai que effectivement, t'as raison d'en parler, Béa. J'ai oublié de désamorcer sur ce film-là. C'est à proprement parler proche d'un film de procès, mais ça répond pas exactement à la définition parce que, comme je l'ai dit souvent, le point culminant d'un film de procès, c'est le procès. Et là, on est dans un film qui prépare un procès éventuel, mais le procureur ne statuera jamais pour qu'il y ait un procès. Dans la vraie vie, il y en a eu un, mais à l'inverse, c'est Richard Jewell qui a poursuivi en justice les médias pour diffamation. Mais dans ce film, il y en a pas. Mais il y a, donc on l'a dit, on a parlé de son avocat qui est joué par
Sam Rockwell.
Sam Rockwell, pardon, qui est joué par Sam Rockwell. Et du coup, on est beaucoup avec le FBI, avec l'avocat, mais on est dans la machine juridique.
Oui, voilà,
au sens
avec,
large, mais on n'est pas
avec tout ce qui pourrait servir justement dans un procès, avec tous les détails, avec tout ce qui recherche. Et
J'ai fait une comparaison tout à l'heure sur notre WhatsApp parlant péloche avec M. Le Maudit, où c'est un film de procès sans procès en tribunal. On n'est pas loin de ça parce qu'on est sur une vindicte populaire. Mmh. Après, il y a un film où il y a un coupable vraiment et un qui ne l'est pas.
Non, puis c'est surtout. Et, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que le fait d'avoir des gens qui veulent absolument un coupable, parce que c'est ça aussi, c'est aussi le côté très.
On a touché leur pays.
Voilà, c'est le côté là pour le coup très américain et je trouve, enfin forcément, qui est dans sa filmographie qui a été très développée par Eastwood
dans sa fond,
voilà,
il
le fait très bien et voilà, avec dans sa vie personnelle des choses qui vont un peu trop loin d'ailleurs, mais c'est vrai que ça c'est très bien montré. Par contre, c'est le fait de chercher absolument un coupable sur quelque chose qui a choqué l'Amérique.
Parce que ça, une fois qu'on a trouvé le coupable, on est tous rassurés,
oui, voilà,
on va dire.
C'est ça.
Et encore une fois, pour faire un parallèle avec M. Le Maudit, c'est ça aussi, ils veulent absolument trouver le coupable pour être tranquille derrière. Moi, je vais un petit peu défendre ce film avant de passer la parole à Antoine.
Non, mais on l'a un peu défendu, c'est quand même un film.
Ah oui, c'est un très bon
film. Vous avez aimé le film. Mais moi, j'ai trouvé encore peut-être une dimension au-dessus, c'est que pour moi, les films d'Eastwood comme ça, je suis pas loin de penser ça aussi pour Sully. Pour moi, c'est des petits bonbons parce que je trouve qu'ils sont très très facilement audibles. En
j'adore Sully.
Ouais, par exemple, voilà, il a une belle manière de mettre en scène les histoires Clint Eastwood, et je trouve que tout est limpide, et en plus, vous avez parlé des performances d'acteurs, là, on est dans la performance plus, quoi. Clairement, que ce soit Richard Jewell et donc son avocat, on est dans de performances éblouissantes, et je pense à notamment l'acteur qui joue Richard Jewell, quand la maman encore en vie de Richard Jewell l'a vu, elle a, dans un premier temps, elle a bloqué, quoi, et après elle s'est dit mais c'est incroyable à quel point cet acteur ressemble à mon fils, donc ça c'est physique, mais en plus Paul Walter Hauser,
lui, voilà, il est incroyable,
et dès le début on se dit waouh, là on est sur un mec qui est en train de faire un rôle incroyable, je trouve, et pour moi c'est le genre de prestation où je trouve pas que ce serait pas bizarre, c'est pas bizarre de voir ce genre de prestation nommé aux Oscars, je trouve. En tout cas, pas forcément gagnant, mais je trouve que voilà, c'est une très très belle prestation. Est-ce que Antoine, tu es d'accord avec moi? Est-ce que toi, tu as aimé ce film?
Ah, moi, j'ai bien aimé le Richard Jewell. Je trouve vraiment que c'est un film sympatoche. Comme je dis, c'est un petit bonbon. J'adore Sam Rockwell, donc je suis peut-être pas très objectif, j'avoue.
On l'aime tous, j'avoue. C'est magnifique cet acteur.
Moi j'ai trouvé le personnage attachant dans cette volonté qu'il a de vouloir, malgré tout ce qu'il subit, bah, rester lui-même, rester honnête, contre vents et marées, il garde son respect des forces de l'ordre, il garde son respect de la loi, de l'autorité, en se disant, bah, de toute façon, j'ai rien fait, même si ce qu'on me reproche est atroce, même si il encaisse, il serre les dents. Et il garde ses valeurs, quoi. Il reste un peu full valeur, même s'il est un peu benêt, quoi. Même s'il est vendu comme quelqu'un d'un peu benêt. Et je sais pas, je le trouve assez touchant. Moi, j'ai trouvé ce film assez intéressant sur pas mal de points. Je trouve que c'est aussi une très belle démonstration de, oui, on a le droit de garder le silence, et c'est utile. C'est-à-dire que le nombre de choses qu'ils essaient de lui faire dire.
Tu pourrais le faire en fin d'émission, Antoine. C'est vraiment une proposition.
Mais non, c'est. Moi, j'ai trouvé ça sympa, c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé la relation de l'avocat et de l'accusé, hein, puisqu'il y a ça aussi. C'est une relation.
C'est basé sur un sneakers.
Voilà, un peu sur un sneakers, mais je veux dire, dans les films de procès en général, on a toujours ça. Il y a cette relation qui se crée, même si c'est qu'un instant, même si c'est que quelques semaines, quelques mois ou peut-être quelques années. C'est des gens qui pendant un an ou deux se battent pour vous, et après on les revoit plus forcément, voilà, parce qu'ils ont d'autres clients, d'autres choses, et on continue sa vie plus ou moins bien.
On n'a pas dit qu'il y avait Kathy Bates aussi dans le film.
Ouais, ah oui, il y a Kathy Bates.
Ouais. Gros casting quand même.
Exactement, et j'ai un gros casting aussi dans Parlons Péloche avec la présence de David Marmignon. David qui maîtrise à la perfection la carrière de Clint Eastwood, je crois, en tant que réalisateur. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là?
J'ai adoré ce film. Pour toute façon, Clint Eastwood, la force tranquille, tu vois. T'as l'impression qu'il se fatigue pas, et pourtant il réalise des chefs-d'œuvre. Alors, autant 15h10 pour Paris, j'avais trouvé ça atroce. Autant celui-là, je le trouve sublime. Il est un peu manichéen, notamment du côté des méchants, mais il est tellement humain, et c'est tout ce que j'aime au Cinoche, tu vois, l'humanité. Déjà, t'as des acteurs géniaux, bon, on l'a dit, mais le film, tranquillement, on est quand même sur un réalisateur grabataire, hein, mais il te déploie un film d'une puissance complètement dingue. C'est hallucinant. Enfin, la scène de la bombe, j'étais scotché à mon siège, alors que tu sais très bien ce qui va se passer quand tu te souviens un peu de l'histoire. Et puis en plus, c'est un film qui met à l'honneur les petites gens. Et c'est ça que j'aime bien aussi.
Parce que bah, t'y étais, toi, hein, t'étais champion olympique.
Oui, champion de team de twirling bâton.
De lancer le nain.
Et non, parce qu'avec l'arrêt de 1995... Alors, le lancer de nain a été interdit en France par rapport à la dignité humaine avec l'arrêt de 1995 de Morsan-sur-Orge.
Bah, tu vois que t'as des valeurs, David. Oui, tout le monde s'est posé la question, dans la tweetosphère notamment. Et non, tu as des valeurs, David.
Mais, et donc, une de mes valeurs, c'est les petites gens. Et c'est facile de se moquer de Jewel. Mais... on est dans le film, on est rattrapé par son humanité, et donc du coup le film il devient très touchant. Il y a cette scène du film qui est vraiment, enfin qui représente pour moi parfaitement le film, c'est la scène de la Macarena où tout le monde s'éclate à la queue leu-leu en train de danser sur du Los Del Mar, et t'as l'agent du FBI et la journaliste qui sont un peu les élites du film et qui sont du côté des méchants clairement, et donc ils soudent notamment la journaliste. On a un peu rien à secouer, leur donne des rôles dégueulasses alors que les gens existent vraiment. Et ils jugent, ils se moquent des gens qui s'éclatent. Et je trouve que c'est ça, ça représente vraiment parfaitement le film. C'est un film, et Eastwood, il continue là-dessus, il continue sur ses films, sur l'humanité, sur les histoires vraies, sur l'américain moyen. Parce que Jewel, c'est pas un vrai héros. Tout de suite, tu le juges. Il est très ambigu. Tu reconnais tout de suite ses tares, ses faiblesses. Et même toi, tu vois, tu le juges et tu te dis qu'est-ce que c'est que ce gros redneck des États-Unis avec son arsenal dans sa chambre, etc. Mais la vraie richesse du film, elle est là. Et le monologue final de Richard Jewell, il te faut autant les frissons que les larmes. Et j'ai trouvé que le film était sublime.
Du rire aux larmes, du frisson aux larmes, pardon, le prochain album d'Amel Bent, il me semble. on va...
Qu'est-ce qu'elle devient, Amel Bent
qu'on peut, hein. Ah, bah, elle est comme nous tous, hein, un peu chez elle, en train de viser la lune. Hein.
Apparemment, elle a toujours le poing levé.
d'après les rumeurs, mais bon, nous n'en savons pas plus. Je vais poser une question, alors, qui me tient beaucoup à cœur et qui a justement orné mon dimanche dernier. Je l'ai dit à vous en off pour préparer l'émission, c'est une question qui pourrait prendre 2 heures hein, pour y répondre, voire plus, c'est assez compliqué. Mais ma question par rapport au film de procès, on a sans cesse quelque part avec un film des révisions de procès. Parce que montrer un film à l'écran, c'est revoir la version des faits, mentir parfois sur ce qui s'est vraiment passé. Je voulais savoir si à ce titre-là, le cinéma ne va pas trop loin quand il s'attaque à un film de procès. Est-ce qu'il dépasse pas sa fonction de, on va dire, divertissement plus. Est-ce que justement, ça un film de procès a pour but d'être à charge? Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. J'ai vu dimanche présumé coupable le film sur l'affaire Routreau. Donc avec.
Il est dans mes références. Qui... Voilà, je spoil la fin. Dans tes références, mais... voilà. Oui.
Ah, il est hyper feel good, celui-là, j'ai adoré.
Ouais, voilà, qui est horrible. C'est un très bon film, en proprement parlé, en tant que film. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est un film donc qui parle de l'histoire d'Alain Maréco. Je vais absolument pas donner mon avis sur cette affaire ou pas, parce qu'on s'en fout et que j'ai même pas en avoir un, parce que voilà. Mais c'est juste qu'Alain Maréco a été conseiller technique sur ce film, donc il donne sa version des faits à 100% et il revisite totalement le procès d'Outreau. Avec sa vision, peut-être qu'il a totalement raison de le faire parce que il a envie de crier l'injustice dont il se sent victime. Mais pour moi, ça pose un vrai problème de.
Non, mais il a été conseillé morale. Parce que le film est une adaptation de son livre en fait. Il a écrit
une adaptation de son livre.
Voilà. Il a écrit un livre, donc c'est à la base plus le choix du réalisateur qui dit voilà, j'ai lu votre livre, je veux donc forcément oui, c'est une base.
Donc c'est le choix du réalisateur.
Mais, oui, mais tu.
Je veux juste terminer juste ma question par un point, c'est de se dire que quelqu'un qui voit Présumé coupable ou un autre film lié à un procès qui s'est passé dans la vraie vie, et ben rapidement dans ta tête tu te dis bah c'est ça la vérité, c'est ça qui s'est passé, c'est sûr.
Alors,
et c'est ça qui me gêne.
Alors moi je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Enfin je suis complètement d'accord avec toi, mais ça ne me dérange pas puisqu'on est quand même dans du cinéma. Donc ouais. Et en fait je voyais une interview du réalisateur de Une intime conviction. C'est Arnaud, je sais plus son nom, mais
sa mère.
Non mais
donc Arnaud,
bref,
je sais pas son
nom. Non mais je vais
bon
le retrouver, il est vrai. Non mais c'est son premier film hein, mais ouais. Mais en fait, il expliquait que il justifiait le fait que c'est une vraie histoire qu'il raconte, mais qu'il a créé un personnage qui n'existe pas, alors que tous les autres existent. Et en fait, donc des gens lui ont posé la question en disant « Bah oui, mais est-ce que dans ces cas-là, vous changez pas un peu la réalité ? C'est votre point de vue de ça ?» En fait, il expliquait, il dit « Bah, sinon, j'aurais fait un documentaire. » Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est que, et c'est ce que je reproche parfois à des films qui n'ont pas de dramaturgie exacerbée, juste parce qu'ils veulent rester au maximum réaliste. Et à un moment, t'as envie de dire « Bah, à ce moment-là, fais un documentaire. Pourquoi pas, tu vois ?» Donc enfin voilà, donc moi ça ne me dérange
même si,
pas.
Fois, ça fois ne me dérange pas de virer pas. Un documentaire, c'est partisan aussi.
Ouais, parce que regarde le documentaire sur Grégory.
Oui.
Sur Grégory, il est super partisan. Et
non mais
ça
d'accord, mais ça va
etc.
quand même faire parler les vraies personnes. Tu vas avoir des vraies images qui se sont passées. Enfin tu vois, c'est encore même effectivement, je suis d'accord avec vous. Il y a le montage et évidemment que ce soit sur un documentaire, t'as aussi un point de vue bien évidemment. Mais quand tu pars sur une histoire que tu racontes, bah oui, fatalement, tu as un parti pris. C'est pour ça que c'est très intéressant, même dans un film, après d'aller se renseigner, voir c'était quoi la vraie histoire, d'aller...
Mais tout le monde le fait pas, c'est ça le problème, en fait.
Ouais, mais à ce moment-là, j'ai envie de te dire...
Ouais, mais quand c'est fait, il faut que ce soit bien fait, parce qu'en fait, ils ont vite fait de tomber dans le sensationnalisme, et parfois, c'est un peu gênant, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a gêné dans la sélection, enfin, dans un des films de la sélection. Et ouais. Alors que c'était une fiction, mais en tout cas quand c'est tiré de faits réels, souvent ça part dans le pathos. Enfin, on te montre des trucs durs, mais c'est vrai qu'en fait, enfin, autant faire un documentaire si tu veux vraiment faire ça, si tu veux pas fictionner ton truc, enfin si tu veux.
Bah sauf si tu veux justement appuyer sur un truc, j'en sais rien, révoltant ou quoi. Bah forcément, si tu l'enrobes d'une certaine façon, bah oui. Si toi t'as été révolté par quelque chose et que t'as envie d'en raconter l'histoire, forcément tu vas accentuer pour que les gens y partagent ta révolte, tu vois. Mais pour ouais. moi, c'est le propre du cinéma et c'est le propre de raconter une histoire.
Parce que les négationnistes, ils sont pas si méchants que ça.
C'est vrai que l'autre film, il est vachement en charge contre les négationnistes.
C'est clair. Non, mais c'est juste que, voilà, je le dis à titre personnel, je déteste me faire un avis sur une affaire. Parce que j'estime que j'ai pas tous les éléments.
Bien sûr.
Et du coup, en voyant un film, à la fin, je dis, ah merde, je me fais un avis parce que le film est tellement bien fait. Je pense au film dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que le film est tellement bien fait que t'es obligé de te faire un avis, mais tu dis, mais j'en sais rien, j'ai pas lu les dossiers, j'étais pas là dans le tribunal. Et après, t'as raison, Béa, hein, il faut juste avoir l'intelligence de prendre du recul. Mais c'est compliqué.
Du coup, on est un peu comme un jury populaire, quoi.
Ouais.
C'est qui pour toi le corbeau dans l'affaire Grégory?
Mais c'est Antoine.
C'est Antoine, voilà.
Alors, c'est moi dans toutes les affaires, hein, je vous le dis. Et dès qu'il y a une zone d'ombre, en général, c'est moi.
Et parce que Antoine, lui était dans la voiture à Bernard, par contre.
Voilà. Et dans Interville, Olivier Chabaudeau, il a triché.
Mais
ou pas
bien sûr,
il a triché.
Mais bien sûr, il avait ses doigts comme ça. Bon là, on voit ça. Pas là, mais
référence qui va vraiment parler à tous les millennials. Ça. Mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette question de morale et de...
Ouais. Désolé, du coup, on n'a peut-être pas répondu.
Si. Le débat est hyper intéressant, mais
non,
comme
non, mais
dis,
du coup,
ça...
ben. En tout cas, on en parlera, je pense, un peu plus dans La fille au bracelet. Mais
oui.
En fait, on est un peu un jury populaire, quoi. On est un peu comme eux, on se fait son propre avis. Justement, La fille au bracelet, c'est en ça que la fin est plutôt bien faite, je trouve. Mais même, en fait, tu le vois dans un procès, dans un tribunal américain, l'avocat qui a le mot de la fin, il va aussi toujours influer sur le choix du jury. En fait, je trouve ça fou, mais en fait, on est un peu à la même place, en fait, le jury populaire. On se fait son propre avis sur, sur un peu du, comment une pièce de théâtre, en fait, c'est une pièce de théâtre.
Surtout qu'en France, on a que les médias, mais.
Oui.
Aux États-Unis, ils ont les procès diffusés en direct sur les chaînes de télé et tout. Enfin, c'est encore plus fou, en fait.
Ouais.
Ce qu'on appelle The Small Court. Ouais, il y a beaucoup de juges qui font ça. Je regarde beaucoup. C'est le confinement, hein.
ça te prépare à tes futurs procès, Antoine.
Et bah oui.
Prépare sa défense.
Moi, je me suis fait l'intégrale.
Prépare sa défense sur toutes tes affaires.
Jean-Luc Reichmann.
Ouais. Tribunal, c'est vrai. Et, non, mais juste voilà, pour peut-être conclure sur la question, de toute façon, on pourra pas empêcher les films de procès d'exister. Au contraire, on adore ça. C'est génial parce que la caméra, comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut pas rentrer d'habitude dans ces endroits-là. Mais, je voulais juste interroger sur cette question qui me paraît intéressante, quoi, finalement. de se dire et ça c'est pareil pour un documentaire, c'est pareil pour comme disait David, après que t'as vu le documentaire Grégory, ton esprit est orienté quoi qu'il arrive.
Bah, en même temps, c'est dur de rester objectif face à des face à des affaires et
tu te poses des questions. En tout cas, voilà. Même si tu dis pas ça y est, j'ai la conviction, même si tu ne te fais pas justement une intime conviction, ça te permet de te poser des questions. Donc rien que pour ça et justement si vraiment le sujet t'intéresse, d'aller farfouiller un peu, d'aller...
Mais il y a forcément des gens qui prennent ça pour argent comptant, c'est sûr.
Et si je dis pas de conneries, le droit français et le droit américain et anglais est différent
Sens où... Ah oui, ils sont tous
dans
les trois
différents. Dans le droit anglais-américain, tu dois prouver que t'es innocent, et dans le droit français, on doit prouver que t'es coupable. Si je me gourre pas.
Non, mais même, là, c'est même aux États-Unis, c'est pareil. Siècle,
c'est en Angleterre, surtout.
C'est en Angleterre, en fait.
On va le voir, là. Pour diffamation, t'es obligé de prouver de ta bonne foi, quoi. Prouver ta bonne foi, prouver
ton innocence.
Une bonne transition.
Idéale avec le procès du siècle de Mike Jackson. Et ouais, c'est un prénom qui est pas évident à porter parce qu'il y en a eu un autre peut-être un peu plus populaire. Le procès du siècle de Mike Jackson. Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l'Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèse controversée sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l'existence de la Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l'existence des chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain de cause et l'empêcher de profiter de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes. Il s'engage vachement à le ciné, là. Alors, ma question sur le film, quelle est la particularité des dialogues, des séquences de tribunal dans ce film, les séquences de prétoire, quelle est la particularité?
C'est véridique.
C'est ça, c'est les vrais dialogues de l'affaire. Et ils ont tous été pris mot pour mot dans les échanges qui sont consignés dans les archives officielles. Donc les séquences les plus émouvantes de ce film se sont véritablement produites.
Pour moi, c'est un peu de la flemme. Voilà.
C'est clair, ils auraient pu écrire. Non, voilà. C'était, j'ai parlé moi-même au scénariste de ce film. Non, j'ai vu ça sur Allociné. Le scénariste disait que c'était une vraie difficulté de se dire, il faut que je rende ça justement par rapport à ma question d'avant. Ça résonne un peu. Faut que je rende ça le plus véridique possible par rapport à ce qui s'est passé. C'était une décision.
Bon, il a rien
employée.
Foutu quoi. Tout était écrit. Fin...
C'est clair.
J'espère
c'est
qu'ils n'ont pas été payés trop cher non plus.
Tristan, qu'est-ce que t'as pensé de ce film?
Bah alors moi du coup, quand je l'ai lancé, j'étais content parce que je veux dire enfin. Un film de procès un peu léger sur un thème un peu plus léger que les autres. Non, parce que c'est bien, on a fait le sida, on a fait le viol, maintenant la Shoah. Bon, tant qu'à faire quoi, c'est bien. J'ai passé un bon week-end aussi.
Là c'est, on n'est pas tous au top de notre forme morale, hein. Mais ça arrive souvent avec Parlons Péloche. On se trouvait un épisode sur le drame, on avait tous fait un petit suivi psychologique après.
Après tu dors bien.
Un confinement, c'est sympa.
Ouais. Alors le procès du siècle, moi j'ai trouvé ça ennuyant quoi. Je trouve que le thème est passionnant. T'apprends vraiment beaucoup de choses. C'est plutôt beau. Alors ils ont fait des plans à Auschwitz tout ça, donc c'est assez dur hein. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, qu'il y avait beaucoup de scènes répétitives. Timothy Spall, je trouve que lui, il est parfait, en tout cas en... Je sais plus son nom, Irving.
Non, David Irving.
Ouais, Irving.
Irving, ouais. Il est... je trouve qu'il est parfait, il joue le rôle vraiment à 100% et tu le détestes, quoi.
Enfin, ah, il a galéré,
hein, lui. Il a galéré parce qu'il s'est beaucoup isolé des autres acteurs pendant le film et
il
tout.
Il est horrible.
Rentrant dans son personnage un peu, et en même temps, il venait de sortir d'un autre tournage où il faisait un autre mec un peu comme ça, un peu difficile dans une histoire en Irlande. Et il le disait, pendant les pauses, il se mettait tout seul, il croisait jamais le regard des autres acteurs, un peu pour rentrer dans le perso, alors qu'en vrai, hein, je le sais de source sûre, c'est une bonne patte.
Mais non, mais ouais, il a vraiment la tête de l'emploi, il a une tête de rat, c'est un truc de fou.
Ah, c'est clair.
C'est
le rat, c'est Croutard.
Mais oui, c'est ça, mais il a la tête, quoi.
C'est Croutard, donc...
C'est Croutard.
Évidemment. Non, mais voilà.
Je savais pas que Croutard était négationniste, je l'ignorais.
Ouais, c'est marrant, ça. Elle le dit pas, J.K. Rowling.
Non, elle n'en parle pas.
Non, voilà, le thème est... Enfin, le thème est parfait, je trouve. Enfin, l'histoire est assez dingue, je trouve ce procès est dingue. Mais dans le film, là, j'ai eu très peu d'émotions.
Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Tristan. Je trouve que le thème est supérieur au traitement que le film en a fait. Donc, ça fait que le film, de prime abord, t'as envie de le voir, il est grave intéressant parce que ce procès, c'est Béa qui me l'avait présenté, ce film-là. Ce projet, tu te dis, mais comment il a pu avoir lieu? Mais la mise en scène est très très simple de et en tout cas la façon dont les éléments sont dépeints est très 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 simple, très très basique, qui fait que bon, ce film aurait dû être un chef-d'œuvre et malheureusement il l'est pas. Béa, je sais pas si t'es d'accord avec ça.
Oui, mais je quand je t'en ai parlé, je te l'ai dit, hein, c'est un film très classique dans la structure d'un film de procès. Mais comme vous dites, hein, le pitch est fou. Et par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que ce procès aurait été très différent aux États-Unis plutôt qu'en Angleterre, quoi. La différence entre les droits, la législation et même du droit français, en fait, tu te dis la même histoire. Elle aurait été traitée différemment dans les autres pays. Et en fait, c'est plus ce sujet-là.
C'est fou parce qu'il a choisi de l'attaquer là-bas,
mais oui,
quoi, du coup.
Mais oui. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'un verdict peut être aussi dû à ça, enfin de ce choix de lieu, à comment tu vas traiter le sujet, quoi. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment le pitch qui est intéressant, et ce qui est juste fou, c'est que tu te dis si ça n'avait pas été une histoire vraie, on aurait dit ouais, c'est un peu too much les gars, quoi, on va pas être obligé de prouver que les chambres à gaz ont existé. Bah si, en fait, et ça c'est ça qui est dingue, en fait. C'est ça qui résonne, c'est de se dire, ben, c'est comme c'est une histoire vraie, forcément, ça résonne autrement. Mais cinématographiquement parlant, je suis d'accord, ça reste classique, mais propre. Voilà.
Classique, mais propre, comme David. Je sais pas comment faire. Comme David, vraiment, dans
maintenant, on te voit venir, mais
depuis
direct.
Le début. C'est vrai que c'est pas évident, vous commencez à me connaître en termes de transition. Ouais, on devrait faire un film sans moi qui s'appellerait Le Transitionneur, ce serait peut-être un joli projet.
David, avec Jason Statham dans le premier rôle.
C'est vrai, en plus, on a des incointances physiques, comme on dit. David, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ?
Oui, j'ai marché du feu de Dieu. Et je trouve que ça en fait des caisses à donf, mais tu as des ralentis dans le camp, t'as des gros violons, tout le bordel. Non, mais chez moi, ça a marché. Donne-moi de l'histoire vraie, des gros sentiments, moi j'adore ça. Et puis, le réalisateur, il s'est dit, ça va... J'ai un méga sujet, j'ai des méga acteurs, j'ai pas non plus besoin de faire de la réalisation, on s'en fout un petit peu. Et en fait, moi, ça me va, tu vois. J'ai trouvé le film passionnant et fou. J'ai trouvé que les scènes à Auschwitz, elles étaient glaçantes. Moi, j'ai kiffé découvrir le droit anglais et toutes les perruques. J'avais envie de baffer Peter Pettigrew. Il jouait avec délectation les gros bâtards. Moi, j'ai bien aimé le truc... No All, No Holocaust, ça m'a fait penser au gant d'O.J. Simpson, If it doesn't fit, you must acquit. Superbe accent anglais. Et c'est vraiment une leçon de plaidoirie.
Ça passe.
C'est vraiment.
T'es peut-être prêt à présenter par Lampeloche, hein, si t'as pas un très mauvais accent anglais.
Mais
c'est une prérogative.
En parlant de la présentation de par Lampeloche, le film est une leçon de plaidoirie. Et à la fin, tu.
Ah.
T'as vu ça, comment je sais bien sucer.
C'est très gentil, David.
À la fin, tu lis 3 tonnes d'articles. Parce que pour moi, si un film de procès marche, à la fin, t'as envie de voir ce qui s'est passé vraiment. Et là, tu sors du film en disant, c'est complètement dingue ce truc. Et du coup, tu tapes tous les articles possibles et tu veux voir la vraie histoire. Et en fait, le film, il sert à ça. C'est un cours d'histoire. Il fait office de cours d'histoire, ni plus ni moins. Mais quelle histoire! Et c'est ça qui est juste dingue. Donc, moi, juste ça me suffit. J'ai passé un moment... juste trop cool devant le film, quoi.
Antoine, est-ce que tu connaissais cette histoire? Est-ce que t'as aimé ce film?
Alors, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Je suis tombé un peu dénu quand j'ai lu le synopsis. J'ai fait non, et c'est une histoire vraie, quoi. On a vraiment eu un procès avec un négationniste qui était en mode ouais, prouvez-moi que les camps ont existé, que c'était vraiment des chambres à gaz.
Et surtout, c'est récent, hein, c'est comme dingue, histoire. C'est
mais
pas
oui,
un
c'est
truc
récent,
qui est dans les années
50. Mais le pire,
quoi,
quand tu regardes le film,
90,
quand tu regardes le film, quand il balance ses arguments, toi t'es devant, puis tu fais. Ouais, attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et limite, tu te sens mal parce que tu te dis, il dit peut-être pas que des conneries. Et en fait, tu vois vraiment le processus et le mécanisme de comment ces gens fonctionnent et comment ils arrivent à te mettre le doute sur des trucs complètement aberrants, quoi. Et c'est ça qui est génial.
Et sans avoir le droit de faire parler les témoins de les victimes.
Victimes.
Et ça, c'est dingue.
Ouais, ça, c'est fort aussi d'empêcher les témoins qui ont vécu ces atrocités de parler. Je trouvais que c'était vraiment le truc un peu fort du film. En plus de tout ce passage à Auschwitz. Mais, Non, moi ça m'a plu sur pas mal de points. J'ai beaucoup aimé, en fait, effectivement, tout, comme dit David, ce plaidoyer. Le fait de... En fait, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à contredire des faits pour que ça corresponde à leurs croyances. Et parfois, ils ont pas forcément, dans la recherche de preuves ou autre, ils ont créé des preuves, ils les vérifient pas et ils y croient dur comme fer. Et du coup, ça devient leur leitmotiv. Et je trouve que c'est une démonstration parfaite de mettre quelqu'un face à ses contradictions, quoi.
Je vais poser maintenant ma question d'ouverture sur ce film. Ma question est formulée de cette manière-là, messieurs les jurés. Le film de procès a-t-il besoin d'être renouvelé? Alors, je pose cette question parce qu'on l'a dit plus ou moins tous les cinq, on s'est dit, voilà, ce film nous intéresse grâce à son sujet, et souvent, finalement, un film de procès, si l'affaire est assez forte, et souvent elle est assez forte puisqu'elle est portée au cinéma, le film, quoi qu'il arrive, va nous intéresser. Mais est-ce que il y a moyen de trouver des manières alternatives de nous montrer un procès? Est-ce que ça a déjà été fait dans l'histoire? Je crois que Béa va plutôt nous répondre oui là-dessus. Et est-ce qu'il y a moyen de renouveler encore ce genre, ou est-ce que c'est un genre qu'on peut qualifier d'immortel, aussi immortel qu'est l'atrocité humaine, peut-être, Béa?
Excuse-moi, c'est parce que je voyais Tristan qui levait la main, mais
et David torse nu.
Non, mais écoute, c'est très bizarre. Oui, par rapport à ta question, en fait, il y a plein de façons de traiter un film de procès. Tu peux avoir soit le film de procès où tout se passe
avec un procès.
Non, mais tout se passe dans le tribunal. Tu peux avoir toute l'histoire avant avec le point culminant avec le procès. Tu peux avoir comme dans 12 hommes en colère où t'as juste finalement le
huis clos
dans la délibération. Tu peux avoir le procès hors chronologique mais avec des scènes de flashback et tout. Pour moi c'est pas figé. Ce qui peut sembler figé, c'est dans un procès les étapes d'un procès, mais ça on peut pas le réinventer, c'est la vie, enfin c'est la loi. Donc ça tu peux pas faire autrement que d'avoir des avocats, que d'avoir une plaidoirie, que d'avoir des interrogatoires, enfin voilà. Mais sinon, je trouve que dans le cinéma il y a eu plein de façons de faire les procès, quoi.
Tristan qui levait la main, justement.
Du coup, je coupe Béa.
Ben non, j'avais fini, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai été un peu bloqué, parce que moi, j'avais bien vu que tu levais la main. Je me suis dit, bon, bah voilà, Tristan, il va pas prendre la parole.
Est-ce qu'on va se retrouver au tribunal pour cette affaire? Vous le saurez en suivant les actus de Parlons Péloche sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter et également Facebook.
Alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de le renouveler. Enfin, au final, ça marche à tous les coups, ou quasi tous les coups. Le tribunal se suffit à lui-même, en fait. Je pense qu'il faut juste trouver, écrire. En fait, c'est un talent d'écriture. Il faut écrire des bons personnages et la bonne histoire judiciaire, quoi. Après, le tribunal, enfin, ça reste un tribunal, et je veux dire, on va pas réinventer l'eau chaude, quoi. Enfin, ça fonctionne. Dans tous les cas, je vois pas comment on peut le renouveler. Il y a pas besoin de le renouveler.
Ouais, les histoires sont pas suffisamment fortes, et puis bon, je le répète pour la 17e fois de l'émission, mais encore une fois, on fait rentrer la caméra là où elle ne rentre pas d'habitude. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, David et Antoine, ou est-ce qu'on s'arrête là?
Ouais, moi c'est surtout les affaires qui font le truc. Et je pense que tu peux faire 25 000 films de procès, du moment que l'affaire est géniale et qu'elle mérite d'être portée à l'écran, il y aura pas de souci.
Est-ce que l'affaire de la fille au bracelet mérite d'être portée à l'écran? La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers. Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis 2 ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. C'est ça le synopsis, le point de départ de La fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers. Ma question sur le film, quel rôle particulier ont eu les figurants dans ce film? Dans les scènes de tribunal, il y a beaucoup de figurants. Quel est leur rôle? David?
Ils ont assisté vraiment comme si c'était un procès.
C'est un peu ça.
Ah, ils étaient pas au courant de l'histoire.
Ils n'avaient pas lu le scénario, c'était un peu des bêta-testeurs, et tous les soirs, le réalisateur leur disait « Alors pour vous, est-ce que la fille est coupable ou pas ?» Et tous les soirs, ça changeait. Du coup, Stéphane Desmoustiers s'est dit « Bah, si ça change, c'est que je suis en train de faire un bon film. » j'insiste sur quelque chose par rapport à La Fille au Bracelet. Donc malheureusement, c'est un film qui était en salle juste avant le confinement et qui commençait à bien fonctionner. C'est Tristan qui m'a envoyé un article là-dessus. Et malheureusement, donc son exploitation en salle a dû s'arrêter et maintenant il est disponible en VOD. Il aurait probablement eu de jolis scores et dommage pour Stéphane Desmoustiers pour La Fille au Bracelet. Donc quelque part, même si je sais pas si tout le monde a aimé parmi les chroniqueurs, mais au moins on réhabilite un peu ce film. C'est ça aussi notre procès. C'est notre procès. Voilà.
Thomas, juste avant de commencer, on peut spoiler un peu ou y a pas de gros spoil, mais est-ce qu'on peut spoiler
Alors on va pas dévoiler la fin, on va pas dévoiler la finalité du jugement, on va juste voilà, expliquer l'histoire. Ouais, comme ça on vous laisse découvrir parce que c'est très intéressant de pas savoir de quel côté balancera l'avocat général à la fin de. À la fin de ce procès. Mais on va jusqu'au bout du procès, en tout cas dans le film. Est-ce qu'on aimait... on va peut-être commencer par Antoine cette fois. Antoine, qu'est-ce que t'as pensé de La Fille au Bracelet que tu viens de fraîchement regarder, il me semble?
Bah, j'ai regardé fraîchement tous les films. Je vais tous regarder aujourd'hui.
Je voulais pas te dévoiler, mais voilà. Antoine a passé une journée au tribunal.
Non, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai passé une journée enfermée pour regarder.
Tu dis, mais La Fille au Bracelet, elle est pas négationniste, je comprends pas.
Tu mélanges tout. Et du coup, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant, mais qui me perturbe sur pas mal de points. Ouais. J'aime bien tout ce côté où en fait on est juste face à un procès, que voilà, ça nous montre l'envers du décor, le questionnement de tout un chacun. J'ai trouvé ça chouette à ce niveau-là. J'ai trouvé que les personnages en fait étaient assez étranges. J'ai trouvé que l'avocate du parti civil, qui est donc l'avocate qui va accuser la jeune fille, je la trouve très peu professionnelle.
L'avocat général, Annelise Moustier, ouais.
C'est la procureure, maintenant.
Avocat général, procureur.
Ouais, c'est la partie civile, quoi. Mais pourquoi tu dis dis ça, Antoine? Enfin, pourquoi tu dis peu professionnelle, c'est ça que je comprends pas.
Bah, je la trouve extrêmement extrêmement subjective, tu vois. Elle a des
propos, rôle.
Ouais. Non, mais attends, mais il y a quand même une façon de parler, quoi. C'est limite insultant. Enfin, je sais pas si c'est légal d'insulter les gens.
Quand elle disait,
garce.
Non, mais pas
non, mais
ça.
Quand tu regardes Dixième Chambre de Pardon, justement.
Pour moi, c'est très réaliste, hein. Enfin.
Ouais. Ah ouais, moi, ça m'a un peu perturbé. Alors que tous les autres sont beaucoup plus, on va dire.
Je vais laisser Antoine continuer, mais Béa parle de réalisme, et justement, à la base, Stéphane Desmoustiers, donc, qui a embauché sa petite sœur, Anaïs Desmoustiers, pour faire l'avocat général, à la base, voulait prendre un acteur plus mûr, et il s'est rendu compte, en allant dans les tribunaux, que souvent c'était
des jeunes,
très jeunes, ouais. Et du coup, voilà, il a voulu coller à la réalité.
Du coup, moi, je trouve que ça manquait peut-être un peu de recul à simuler. Du coup, ça m'a un peu refroidi. Sur toutes ces interventions-là, parce que ça perdait en crédibilité pour moi.
Tu trouves qu'elle accuse trop, c'est ça?
Bah, pas qu'elle accuse trop, c'est que même parfois, c'est quand on lui ramène un fait que sur lequel elle se basait, qu'on dit que c'est faux, elle est en mode « Ah bah, on n'en parle pas, faut pas en parler, important. Ouais. » Genre, tu peux pas accepter d'avoir tort, enfin...
Mais, non, mais c'est chacun son rôle, en fait, de la même façon que si elle devait défendre... Elle est censée défendre la partie, inverse. Donc c'est normal.
J'ai aucun problème.
En fait, elle
là-dessus.
Se fait l'avocat des autres, en fait. Elle se fait l'avocat des victimes, en fait.
Oui. Mais
c'est une grosse méchante, t'as trouvé.
C'est pas l'avocat des victimes. Je trouve pas que c'est une grosse méchante. Je trouve qu'elle met trop d'affect et qu'elle reste pas assez sur les faits. Justement, on parlait de faits. On parlait qu'un procès, c'est quand même quelque chose où on vient chercher les faits. On essaie de trouver un peu le pourquoi du comment. Et je trouve que c'est comme si elle découvrait le dossier en même temps que le procès avait lieu, et ça me perturbe.
Non, c'est pas ça. Elle est là pour gagner.
En fait, en plus dans ce procès-là, ils ont pas grand-chose.
Je ne dis pas qu'elle n'est pas là pour gagner. Je ne dis pas qu'elle ne veut pas gagner. Je dis juste que sa méthode, sa façon de faire pour gagner, je la trouve. Pour moi, j'ai trouvé ça peu crédible. D'accord. Et ça m'a refroidi.
Je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas, c'est que en fait, ça fait un moment que tout porte à croire qu'elle est coupable, et on arrive dans un moment assez mûr du procès finalement.
Bah oui.
Ça fait déjà 2 ans que le procès a lieu.
Bien sûr, mais voilà, alors qu'on nous montre peut-être d'autres, enfin je sais pas.
Ça t'a dérangé en tout cas.
Il m'a laissé un peu perplexe sur pas mal de points, ce film, mais j'ai trouvé ça intéressant dans les questions que ça soulève et surtout dans la relation. Je trouve aussi que la façon dont c'est tourné, la façon dont les scènes s'enchaînent, bref, j'ai trouvé que le procès était assez lacunaire dans les informations qu'il veut donner pour garder une sorte de suspense, et que du coup, le fait que la jeune fille parle peu ou autre, ce qui peut induire un peu le l'observation du spectateur et son avis.
Tout le film tourne autour de ça,
le mutisme. Bah, en soi, je trouve que c'est à la fois une bonne idée et à la fois, je trouve que ça arrive toujours à des moments où c'était peut-être pas le bon moment pour que ça arrive.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Mais en fait, tu comprends ça, un peu plus quand tu lis des interviews de Stéphane de Moustier, parce qu'il dit vraiment qu'il a voulu un peu mettre l'enjeu judiciaire de côté. Et il s'est plus concentré sur l'enjeu intime. Donc je pense, en fait, ouais,
c'est un choix pour le coup.
C'est un procès qui n'en est pas vraiment un. Il se concentre sur d'autres choses.
J'aurais peut-être dû lire les choses de l'auteur parce que
tu peux ne pas être sensible. En fait, il veut te mettre à la place de ses parents. Il veut te mettre à la place de ses parents, le réalisateur. Pas à la place de la victime, mais des parents. La façon, t'imagines les parents qui voient dans le box leur fille ne rien dire. Et c'est un peu ça qu'il a voulu expérimenter.
Parce que du coup, les charges, les preuves, en fait, tu te rends compte que c'est pas très important et qu'il y attache pas de l'importance, en fait.
Ouais. Voilà, David ?
Moi, j'ai trouvé ça passionnant, que tu te prends vraiment pour un membre du jury. Et donc, du coup, tu joues le jeu sans t'en rendre compte.
Enfin, regarde The Voice, mec.
T'as vu quand Anaïs Desmoutiers, elle dit à la fille, je te veux dans mon équipe. J'aime ton univers, mais je dis rien.
Après, génial, n'empêche, si les procès étaient comme ça, c'est beaucoup plus vite. Et ça dépenserait moins d'argent de l'État.
Tu as chanté Lambéandro de Matmata.
Non, mais du coup, t'es à fond dedans, tu t'analyses tout, t'analyses les preuves, l'attitude de l'accusé, tu juges, t'essayes de pas juger. Et donc, du coup, le film est très fort là-dessus. Et les acteurs, ils sont tous très bons.
Ouais.
Mais du coup, forcément, comme c'est méga réaliste, eh ben, c'est méga froid. Et donc, du coup, on s'éloigne de ce que j'aime dans les films de procès, c'est-à-dire le Panzer, les gros violons, etc. Et du coup, c'est là que tu vois aussi que je suis super conditionné par le droit américain, parce que j'ai dû demander à ma pote qui est avocate la différence entre l'avocat de la partie civile et l'avocat général, parce que je comprenais pas pourquoi t'avais deux avocats différents sur la même personne. Donc si vous voulez, je peux vous faire un podcast différent.
Volontiers.
Parlons avocat, ou parlons plaidoirie, je sais pas quoi. Et du coup...
Il existe déjà Parlons avocat, c'est un podcast sur le guacamole. Faudra pas qu'on s'appelle comme ça.
Ah putain. Du coup, au final, le film m'a énervé parce que arrive ce final qu'on va pas révéler et il m'énerve parce que le film te laisse comme ça et c'est souvent comme ça dans les films de procès aussi et donc du coup, bah ça m'énerve, mais j'aime ça, mais ça m'énerve, mais j'aime ça. Donc du coup, au final, encore une fois un très bon film et donc ça me lave un petit peu de tout ce que t'as pu me faire subir, Thomas. Merci beaucoup.
Ah super. C'est vrai que là, je t'ai fait une sélection aux petits oignons.
Exactement. Alors un peu dépressif, mais
un peu triste, mais bah souvent le cinéma triste c'est le meilleur, c'est comme les musiques, enfin je trouve. J'allais dire
pas comme les baises.
Pardon
Jean-Marie Bigard. Au montage.
Il revient Bigard comme ça, on sait pas trop quand. Rapidement, je vais juste dire, moi j'ai trouvé ça haletant, assez prenant justement, et comme tu dis, c'est froid. Et du coup, j'ai bien aimé cette vision-là, et on se pose beaucoup de questions pendant tout le film, et c'est ça que j'ai trouvé très chouette. On parlait du fait que les films de procès sont proches, c'est un genre dramatique. C'est un thriller, ce qu'on est en train de voir là, la fille au brassé, c'est un thriller sans les actions glaçantes. C'est juste un thriller basé sur notre imagination. C'est ça que j'ai aimé dans ce film. Tristan, qui ne partage pas mon point de vue et qui n'a pas trop accroché à la fille au bracelet.
Non, c'est sympa. C'est...
Faut expliquer l'histoire. Hein, c'est qu'à la base, on hésite entre ça et une intime conviction. Et Tristan était, pour faire un procès, voilà, Tristan était plus chaud sur une intime conviction. Moi donc, aussi. Ça a créé un schisme dans l'équipe.
Non, mais vraiment, pour un téléfilm, c'est très sympa. C'est une intrigue
Tristan.
Pas ouf. Parce qu'il y a vraiment zéro preuve. Après, du coup, j'ai appris que c'était pas ce que le réel voulait mettre en avant. Mais bon, il y a peu de surprises. L'ado, celle qui joue l'ado, enfin en tout cas le personnage, elle est hyper irritante.
Ouais, donc ça c'est une ado.
Elle est nommée au César de meilleur espoir féminin. Elle est parfaite dans son rôle, je trouve.
Elle est horrible. je la déteste. Quoi. Mais pourquoi pas en même temps. Du coup, c'est peut-être fidèle à la réalité. Je déteste les adolescents.
Je pense.
Non mais justement dans une intime conviction il y a un côté thriller et enquête qui pour moi en fait change tout et à côté de ça dans La fille au bracelet je me fais chier peut-être que voilà j'y ai pas trouvé mon compte il y a un bon point alors je trouve que il a fait un bon choix en choisissant Anaïs de Moustier en tant que procureur, parce que pour une fois, c'est pas un vieux loup croulant. Mmh. Parce qu'à chaque fois, le procureur, c'est un vieux, c'est un homme, c'est un vieux, et c'est toujours le même personnage. Pour une fois, ça changeait, pourquoi pas. Mais je me suis ennuyé, quoi.
Béatrice, de ton côté, est-ce que
tu m'appelles Béatrice depuis le début de l'émission? C'est un truc de dingue.
Mais c'est votre état civil, mademoiselle Béatrice. Joya, et je tiens à vous le dire.
Voilà, j'en ai quatre.
Voilà, il faut. Et là, vous êtes devant la cour, et ce n'est pas pour parler de diminutif ou de surnom, mais bien pour parler de la fille au bracelet.
Oui, alors.
Béatrice.
Alors, ce qui a pour moi un peu desservi le film, c'est que quelques mois auparavant, j'ai vu Accusada, le film argentin, mexicain, ouais, voilà.
C'est un remake,
c'est
la fille
un remake
au bracelet, faut le
de
dire.
La fille au bracelet. Librement alors, je sais pas inspiré, si c'est un remake ou si c'est, juste utiliser la même histoire, mais.
Dans le générique, il dit c'est inspiré.
Ouais, voilà, c'est inspiré, parce que déjà, Accusada est inspiré d'une histoire vraie, enfin, d'un vrai fait divers. Clairement, La fille au bracelet est mieux que Accusada, déjà parce que vous l'avez un peu dit, mais enfin différemment du coup, mais moi je trouve que le personnage principal, donc la gamine, elle est absolument tête à claque, mais c'est ça que je trouve très intéressant, c'est de se dire, c'est que tout à coup son attitude, qui est juste son attitude à elle, devient un élément à charge contre elle. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un peu à la gueule de l'emploi, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Tout le casting, en fait, même les parents. Enfin, Roche Dizem, Kiara Mastroianni. Enfin, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment très bons.
Le petit frère. Alors, je fais même pas une blague. Je trouve que le petit frère joue formidablement bien. Et c'est,
ah oui, pour un
c'est
petit,
pas évident.
Oui.
Il veut récupérer sa chambre, quoi.
Ouais. Non, mais.
Mais oui, mais moi, en fait, j'ai beaucoup aimé cette justement le parallèle entre la vie de cette gamine, la vie de son âge en fait, avec ce pourquoi elle est accusée, qui est quand même un crime atroce.
Le côté où le procès devient un élément de sa vie, un élément lambda, où elle y va tous les jours, ouais, un peu saoulée, elle revient le soir à voir son mec.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est fort dans le film.
Mais alors, je trouve qu'on s'attarde beaucoup sur la relation des deux amis et sur la sexualisation aussi des ados. Ça m'a un peu gêné parfois.
Oui, mais c'est parce qu'ils s'en sont servis pour décrire cette gamine en fait. Tu vois, ça, tout devient élément à charge contre elle. Et contrairement à ce que vous disiez, effectivement, moi, Anaïs Desmoussiers, je la trouve vraiment excellente, quoi. Parce que on n'a pas l'habitude déjà de voir ça effectivement dans les films de procès. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve qu'elle joue bien, de toute façon, cette femme. Mais alors, voilà, le pour, le contre, c'est que effectivement, je trouve que le rythme est assez lent quand même. Donc il y a le sujet, je le trouve intéressant au final, mais dans le traitement en lui-même, c'est vrai que peut-être un peu pesant. Voilà.
Ouais.
Voilà, c'est juste ça.
Mais voilà, le pesant, on le prend soit comme une qualité, soit comme un défaut, effectivement. Voilà. Mais le film est pesant, moi je trouve aussi, mais dans le bon sens du terme. Ma question, ce sera un peu une question rhétorique, vous répondrez non, mais je la pose quand même pour faire avancer le débat. Le film de procès doit-il se baser automatiquement sur des faits réels pour gagner en intensité?
Mais non!
Oui!
Non, mais enfin, oui, j'ai envie de dire oui, en fait.
Ah,
non, mais oui, ça joue.
Alors,
ouais.
Tristan, qui lève la main, et cette fois, je ne l'oublierai pas, Tristan. Ah. Tristan.
Alors non, évidemment que non, mais par contre, oui, effectivement, on est un peu voyeur, hein. Enfin, les faits divers, nous, ça nous intéresse, donc il y a un côté où tu rentres aussi dans une affaire, t'es aussi la petite souris, en fait, mais après, dans une affaire, dans un parti pris, et il faut pas trop en faire, parce que comme j'ai dit, on tombe vite dans le sensationnalisme, mais il faut un bon équilibre, je trouve, entre la fiction et la réalité. C'est ça qui est plus intéressant.
T'as raison, ça répond encore une fois à la première question que j'avais posée. On rentre dans une affaire et dans un parti pris, c'est exactement les bons mots. David ?
Moi j'aime bien les deux, mais vas-y, donne-moi des histoires vraies tout le temps. Tu peux pas défoncer la vérité, la réalité avec une fiction. Tu pourras faire ce que tu veux, mais tu peux pas imaginer une affaire comme l'affaire Doutreau, imaginer une affaire comme l'affaire Grégory, ou ce qu'on vient de voir dans les trois films, tu vois, c'est ça qui est dingue. Et donc du coup, je trouve qu'une la caisse de résonance dans l'histoire vraie est encore plus forte que n'importe quelle fiction.
Et t'as raison, derrière on va tout lire, va lire tous les articles possibles pour en savoir plus. Ouais.
Et du coup, le film, il grandit en toi, parce que du coup, c'est pas qu'un seul film, c'est aussi toute une histoire, et avec des points de vue, etc., c'est ça qui est cool.
Bien.
Ouais, moi, je suis complètement d'accord, c'est que la réalité, des fois, est plus forte que la fiction. En fait, il y a rien de plus intéressant que la vraie vie, en fait. On n'est pas obligé finalement d'inventer 15 000 histoires. Il y a déjà tellement de choses de la vraie vie. Donc, et je trouve que les films de procès pour ça sont bons là-dessus, quoi.
Et Antoine, pour conclure.
Je suis assez d'accord avec vous puisqu'on parle avant tout de films de procès. Donc, effectivement, la vraie vie est, je pense, essentielle dans ce domaine-là parce qu'on est face quand même à une administration, en fait, à une vision juridique des choses pures et dures, législatives. Mais après, je me dis que la fiction dans les mœurs et peut-être dans les crimes, dans l'horreur, dans le glauque, on peut quand même faire des trucs assez cool. On a des très belles histoires de vengeance, des très belles histoires de gens qui partent en couille face à des situations, mais c'est généralement dans des films où ils essaient de faire justice eux-mêmes, où ils s'affranchissent un peu de ce système-là. Je pense à Prisoners, je pense à plein de petits films comme ça qui quand même sont assez assez marquants et qui sont hors de cet état de procès. Mais je pense qu'effectivement, quand on parle de films de procès, on peut rarement battre la réalité.
Mais quand il y a un mix, c'est hyper intéressant. Oui. Marina Foïs dans Une intime conviction, ouais. Le personnage, ouais, qui est purement de la fiction, il est génial et il apporte beaucoup, ouais, en fait.
Alors pas purement puisque il s'est inspiré de lui en fait. En fait, alors donc c'est Arnaud Rimbaud en fait son nom. Je cherchais tout à l'heure.
Il parlait de ce film parce que vous vouliez,
ouais,
en parler.
Ouais, on voulait vraiment en parler parce que moi je pense vraiment, enfin je m'avance peut-être, mais je pense qu'Une intime conviction va devenir un film.
Je suis désolé, mais j'ai vu ton chat passer derrière toi, aller vers la cuisine pour faire une énorme connerie. Je sais pas ce qu'il veut faire, mais c'est ça aussi le charme de la vision.
C'est la chasse à la mouche. Voilà, excuse-moi. C'est la chasse à la mouche à cette heure-ci. Ouais. Mais donc ouais, je pense vraiment qu'Une intime conviction, dans quelques années, ça restera une sorte de référence de film de procès. Je m'avance peut-être, hein, mais je le trouve tellement juste. Et en tout cas, oui, passionnant parce que il le tourne à la façon d'un thriller. Et donc, effectivement, le personnage de Marina Foïs est fictif, mais en fait, c'est lui. Enfin, il s'en défend. Ah, il était présent au procès, pas vraiment, ouais. Machin. Nan, nan. Mais en fait, si, c'est lui qui allait chercher Dupond-Moretti pour aller le présenter à la famille. C'est lui qui a dit, bah attendez, on va trouver un nouvel avocat. Enfin, donc il était quand même très. Il a assisté au procès, donc il s'est passionné sur cette histoire. Il s'est même posé la question justement d'en faire un documentaire. Je pense qu'au départ c'était ça le projet d'ailleurs. Je pense que c'était de faire un documentaire dessus. Et au final, il en a fait un film. Donc voilà, je ne sais pas.
Ah, et puis c'est Toulouse aussi, c'est le sang.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. C'est vrai que moi, une intime conviction, quand j'ai appris au final, quand t'as le carton final qui dit Marina Foïs n'existe pas, entre guillemets, j'ai trouvé que le film était encore plus génial que ce que je venais de voir en me disant, c'est déjà méga bien. Et donc du coup, franchement, c'est... Quand t'as ce mélange des genres,
bah,
qui arrive.
En gros, c'est un peu comme le procès du siècle, où en fait, toutes les scènes qui sont dans le tribunal, c'est des vrais, et tout ce qui se passe justement donc entre Marina Foïs et Dupond-Moretti, ça c'est écrit, c'est de la fiction, quoi. Mais
comme quoi, Dupond-Moretti il a merdé sur les Balkany, mais c'est quand même un sacré avocat.
Non mais lui, en Vergès, cas, je trouve que c'est des mecs qu'on peut critiquer, évidemment, parce que c'est un métier critiquable, hein, avocat, mais...
Eh, on va pas dire, mais dans sans aucun doute, il faisait le taf. Hein.
Les sept péchés capitaux.
C'est des mecs qui sont super forts en
mais
TPE,
oui,
tu vois.
Mais oui, je trouve ça incroyable.
Ils savent super faire... Un oral de français, c'est facile, tu vois.
Ah ouais, le champion. En tout cas, vous avez essayé de me convaincre.
Juste, attends, excuse-moi. Oui. Juste, pour revenir sur Une intime conviction, on a aussi Laurent Lucas, en fait, qui fait l'accusé, Viguier, et qui est un peu comme dans La fille au bracelet, qui a une attitude complètement fermée. Il est complètement ravagé psychologiquement, de toute façon. Donc, il parle
pas. C'est pas ce que ça fait de vivre ça.
Donc voilà. Donc...
Bah, Antoine.
Oui, être accusé à tort, j'ai l'habitude.
Être ravagé aussi.
Ah oui, ça.
Par l'alcool.
Excuse-moi, je t'ai coupé, Thomas, vas-y.
Par la vie.
D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, petite anecdote pour la fille au bracelet, on revient sur la fille au bracelet, le juge est un vrai avocat dans la vie, celui qui joue le juge dans la fille au bracelet. Voilà, vous le savez, c'est la petite info supplément. Vous avez essayé de me convaincre que j'avais fait une erreur de ne pas mettre une intime conviction dans la sélection. Si vous voulez, mais le procès est joué d'avance, puisque l'émission est en phase de fin, puisqu'effectivement, on en est au stade où je sais plus faire de phrases, donc c'est probablement la fin. Mais d'abord, on va se dire, quel est votre film préféré dans la sélection? On va commencer par Béa.
Oh! Ben ouais, écoute, bah oui, ils sont très différents, je trouve, les trois.
C'est pour ça que c'est une bonne sélection.
Ouais. Et ben néanmoins, même s'il est très classique, je pense que je vais quand même mettre Le Procès du siècle.
Procès du siècle. David, je pense savoir.
Richard Jewell.
Antoine?
Je veux dire Richard Jewell aussi. Même si j'aime bien le petit pied de nez au platiste à la fin du Procès du siècle.
Ok, Tristan.
Richard Jewell, mais par défaut. Ouais.
Par défaut, et moi, Richard Jewell complètement. On vous conseille, du coup, Le Label Parlant Péloche vient au cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Voyez des films de Clint Eastwood, de toute façon, ça restera quand même, de toute façon, un grand monsieur du cinéma, le mec qui enfonce des portes ouvertes, le You Fuck My Wife. On passe tout de suite à cette avant-dernière séquence de l'émission, le You Fuck My Wife.
You Fuck My Wife.
What?
You Fuck My Wife.
Le You Fuck My Wife, donc après avoir niqué notre morale, hein, et après avoir vu trois films de procès récents, nous allons nous intéresser à nos références autour de la table. Quels sont vos films de procès de référence et pourquoi? Alors là, on vous prévient direct, sortez le tapis rouge, sortez les pop-corn, on va vous filer des films à voir pour vous faire une espèce de culture ciné avec des pépites, des pépitos. On va commencer par un film dont on va tous parler, j'en suis sûr, un film que Béa nous a vanté pendant des années, qui est tout simplement numéro 1 du top 111 Sens Critique. C'est quand même une place assez enviable. 12 hommes en colère. Alors, je pense qu'on a tous 12 hommes en colère en tête. En tout cas, moi, je l'ai parce que je l'ai regardé pour préparer l'émission. Pourquoi j'ai lancé l'émission comme ça? C'est n'importe quoi. Pourquoi j'ai lancé cette séquence comme ça? Tristan, tes références, lesquelles sont?
Alors, moi, j'ai Madame Doubtfire. Parce
que
pour récupérer ses gosses, quand même. Enfin, il va au charbon, quoi.
C'est le nouveau Kramer contre Kramer. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, il y a très peu de scènes de procès, mais il y en a. Gros film de procès.
Menteur, du coup.
Putain, j'allais le sortir.
Je l'aimais pas.
C'était dans mes références, j'allais te sortir ça, putain.
Non, j'aime beaucoup The Social Network.
Ouais.
Qui est assez ouf, que j'adore revoir, en fait. Il est, je m'en lasse pas du tout. J'aime beaucoup Flight de Robert Zemeckis avec Denzel Washington, histoire du pilote qui est accusé alors qu'il a sauvé tout un avion. J'aime beaucoup Sleepers. J'ai vu Des Hommes d'Honneur là pour le podcast, que j'ai adoré. Jack Nicholson et Tom Cruise, enfin
You can handle the truth.
Kevin Bacon.
Donc là où tu disais que c'est intéressant parce qu'on est dans le cadre d'un
tribunal militaire. Ouais. Du coup ça change et pourquoi pas.
Jack Nicholson, il est dingue dans le film.
Et c'est l'âge d'or de Tom Cruise, cette époque-là.
Ah bah là, il est beau, il est magnifique.
J'aime bien dire des phrases comme ça.
Tom Cruise et Demi Moore sont magnifiques dans le film. Ouais. Ils étaient vraiment à leur summum.
Mais puis Tom Cruise, il enchaîne avec La Firme après.
Ouais.
Ouais. J'ai vu Les Accusés, qui m'a retourné.
Ah ouais.
Enfin, il y a des scènes hyper marquantes, surtout une scène hyper marquante qui est assez dingue. Et j'ai vu Dixième Chambre de Depardon, que j'ai adoré. J'avais adoré 12 jours déjà à l'époque. T'es vraiment la petite souris qui rentre là où elle peut pas rentrer d'habitude. Enfin, là où toi, tu peux pas rentrer d'habitude. Et c'est
parce que la caméra ne s'invite pas normalement dans les...
dans des endroits aussi aigus.
Mais en plus, tu dis des bêtises, Thomas, parce qu'aux États-Unis, ça.
Oui, non, mais oui. Mais tu as raison, je dis des bêtises. Non, mais oui, mais je veux dire, voilà, moi, je suis français, madame. Antoine, t'avais fini, Tristan?
Ouais.
Antoine.
Donc, 12 hommes en colère, Kramer contre Kramer, La Défense Lincoln aussi, que j'ai beaucoup aimé.
Plus récent.
Très très cool. Bah justement, Béa parlait des avocats qui ont parfois le métier de devoir défendre un connard. Bah c'est exactement cette histoire-là et je trouve que c'est assez jouissif comme film. La Revanche d'une blonde.
C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est bien.
Parce que Reese Witherspoon.
Ta le gueule, David.
Non, je plaisante.
Sexy Dance 3.
Et en vieux, vieux truc, je crois que c'est le premier film de procès que j'ai vu de ma vie. C'était en cours d'histoire. C'est La Controverse de Valladolid. Et, ouais. Et voilà, ça reste. Ça reste.
La Controverse de Valladolid.
Il a vraiment dit La Revanche d'une blonde. Du livre. Et La Controverse de Valladolid.
La Controverse de Valladolid. Alors, moi, ce que j'adore dans la vie, c'est La Buzz et Citizen Kane. Alors, moi, c'est vraiment.
Eh oh, je suis éclectique, merde.
Ah oui, effectivement. David.
Alors, étonnamment, tout pareil que Tristan. Je pense qu'on va finir par.
Pourquoi étonnamment?
Merde.
Parce que tout à alors, coup, ils sont copains, les gars.
Je me permets. Dans les conversations WhatsApp de Parlons Péloche, il y a eu beaucoup d'Annie Croche au début de l'aventure David Tristan, et maintenant j'ai l'impression que se développe une complicité. Me trompe-je?
C'est vrai, ouais.
Mais non, mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'il me critique.
Ah, mais c'est.
Il me tague. Et ça, j'ai l'impression que c'est fédérateur.
Alors moi, Béa, c'est fédérateur. Si t'as remarqué, j'avais arrêté. C'est un peu David qui a remis de l'huile sur le feu.
Ouais.
Ouais.
Et moi, j'aimerais bien qu'on m'invite sur ce groupe WhatsApp.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'habitude, Antoine fait cette blague, mais là, elle est vraiment pas sur le groupe.
Vraiment pas.
Et d'ailleurs, il faudrait qu'on invite, parce que j'en ai marre de devoir appeler Antoine pour lui dire les choses qu'on se dit sur ce groupe.
Après, on va peut-être recréer un groupe, parce que là, si on l'invite aujourd'hui, il va retomber sur toutes les saloperies qu'on a dites sur lui.
Ah oui, c'est vrai que ça va être.
Après, c'est pas très intéressant, t'as 80% de discussion sur Animal Crossing et des navets.
C'est pas faux.
C'est vrai.
C'est pas faux. Mais ça l'intéresse, Antoine. Non, pour la petite histoire, Antoine, parce que visiblement c'est notre procès à tous, là. C'était un groupe qui s'appelle Parlons Péloche, réseaux sociaux.
Insta.
Pour les gens qui font les.
Insta
ouais, enfin, voilà. Mais c'était pour parler réseaux sociaux. Mais tu es bien sûr le bienvenu.
Alors
Antoine,
après,
je
pour
vais
la
te
petite histoire,
le Golden Ticket.
Antoine ne répond jamais à personne. Mais.
C'est pas faux. Antoine n'est pas très.
Je suis pas très réseau social, en fait.
Pas très contact humain.
si, bah moi j'aime bien voir les gens. Tu vois, c'est...
Ah bon. Tu préfères en vrai avec un saucisson et du fromage, c'est
exactement.
Bien là.
Exactement. Je préfère amener une bonne bouteille. Moi, c'est comme ça que je sociabilise.
Parce que tu es français. Alors. donc, David, excuse-nous.
Ouais, donc, on l'a dit, 12 hommes en colère, les accusés. Philadelphia.
Ouais.
Histoire de
très bon fromage. La fin d'émission pour tout le monde.
En plus, c'est une super blague, celle-là.
Des hommes d'honneur et une intime conviction. Je pense que le must du must, c'est JFK d'Oliver Stone.
Ouais.
Version longue.
Ah ouais,
3h30. Là, pour le coup, il donne son avis, mais c'est impossible de ressortir du film en disant ouais, Kennedy, c'est un complot, quoi. Enfin, c'est sûr, tu peux pas. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il t'explique pendant tout le film son avis, et tu te dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière d'Oliver Stone? Pourquoi il nous fait plus des films aussi vénères et aussi violents? C'est ça qui est dommage. Et après une autre référence qui n'est pas cinématographique, la série The People vs O.J. Simpson, qui est vraiment du travail d'orfèvre, 10 ou 12 épisodes sur le... Non, peut-être un peu moins, mais sur le procès d'O.J. Simpson, et c'est un truc hallucinant. C'est une histoire qui est passionnante et qui me passionne. Et en plus... C'est impossible de pas finir les épisodes en allant voir sur Wikipédia ce qui s'est vraiment passé, parce que tu te dis, la vache, c'est impossible qu'ils aient pas inventé ça. Et on en revient au débat sur, tu peux pas tester la vie réelle. Voilà. Et là, je viens de finir la série Quiz sur le procès d'un des tricheurs de l'émission Qui veut gagner des millions en Grande-Bretagne, et c'est aussi très très sympa. Donc voilà. Et après, bon, du coup, menteur. Les plaidoiries de Jim Carrey dans le film sont vraiment géniales, notamment ce moment qui me met toujours les larmes aux yeux quand il regarde son auditoire.
Il sort de l'ascenseur et dit c'est moi qui ai pété.
C'est moi qui ai pété.
C'est un des plus gros fous rires de ma jeunesse, mais pardon.
Quand il regarde son auditoire et qu'il fait je peux pas mentir.
Ouais.
Voilà, je pense que c'est ça le meilleur film d'avocat.
En tout cas, David, tu frôles avec la limite parce que tu parles de série dans Parlons Péloche. C'est très très bien.
Tu as remarqué que je le fais à chaque fois?
Ouais, mais c'est une petite provoque. Et sachant que tu ne dois ta place aujourd'hui que par le fait que Fouad est actuellement en comparution immédiate pour une sombre histoire. Non, pardon.
Une sombre histoire
David,
de peignoir.
Bienvenue. Ouais, de peignoir, voilà.
Eh bien, vous saviez que alors. Fouad avait joué dans 12 hommes en colère?
Eh oui.
Oui,
au
il a
théâtre.
Fait une adaptation.
Oui, mais bien
au
sûr,
théâtre.
Au théâtre.
Ouais.
Au théâtre.
Et alors, j'ai demandé ce qu'il jouait. Il m'a dit qu'il jouait le
pupitre.
voilà, le pupitre.
Et... Un mec avec une perruque, en tout cas. Il avait
moi, j'ai trouvé ça mieux que le film. C'est faux, j'ai pas dit.
C'est le truc impossible.
La salle des fêtes de Jeumeau était remplie, en tout cas.
C'était magnifique. Fouad, si tu nous écoutes, tu as un très joli peignoir. Béa, il faut savoir que quand on fait des Skype entre nous, entre équipes, je raconte beaucoup de choses à nos auditeurs, mais on vous le doit. Fouad met un peignoir improbable.
Ah, c'est un kimono en satin. C'est vraiment un truc spécial.
Kimono japonais, étrange.
Mais Fouad, c'est vraiment un gars à connaître. Béa, voilà, on n'a pas trop parlé de 12 hommes en colère parce qu'on pense que tu vas nous en parler. On a voulu te laisser ce petit cadeau, mais...
Alors...
Parle de tes références.
C'est pas de celui-là dont je voulais parler le plus, mais évidemment, enfin, si vous ne devez en voir qu'un, je dirais bien quand même celui-ci, parce que, ben, j'en ai parlé un petit peu dans l'émission, mais l'intérêt, c'est de voir ce huis clos. Mais on en a parlé d'ailleurs hein, dans l'émission sur le huis clos de ce jury, pardon, qui doit décider de l'avenir d'un mec. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est la question qu'on devrait tous se poser dès qu'il y a un doute. En fait, la notion de doute. Jusqu'où elle va et enfin c'est passionnant et pourtant voilà c'est que 12 hommes qui sont enfermés dans une salle avec la plupart qui se disent oui bah c'est bon ça va durer une heure et tout va bien et en fait non parce qu'ils doivent être à la majorité enfin c'est assez
pour simplifier le pitch en fait il y en a 11 qui se disent bah le mec est coupable il y en a un qui dit bah moi je pense qu'il est pas coupable voilà. Et là
et donc à partir de là ils doivent tout remettre à plat et voilà. tout refaire. Donc voilà, passionnant. Il y a eu plein de versions. Moi, je vous conseille celle de Sidney Lumet. non, mais il y a eu beaucoup de versions. Il y a même eu une pièce de théâtre avec Michel Leeb.
Ah. Aussi.
Mais qui paraît-il était très.
Il y avait aussi
il jouait un chinois.
Voilà, en tout cas.
Mais il faisait les 12 hommes qui étaient de 12 nationalités différentes.
En tout cas, celle de Sidney Lumet est vraiment très très bien.
Le projet de merde. Oh là, alors... je pense qu'il est coupable.
Ce ne sont pas mes oreilles, ce sont mes babines.
Pardon Béa, on te coupe dans ton
non,
moment.
C'est grave.
Surtout, il te coupe avec des
ça
blagues
racistes. Ça fait tellement plaisir de vous voir.
C'est horrible.
Non mais c'est ça en fait.
Il est coupable.
Ah mais là, faut couper. Là.
Moi, je pense qu'il est innocent.
Mais vous êtes grave, hein. En plus, il paraît qu'elle est super, cette pièce de théâtre, et ils ont eu beaucoup de succès. Bon, bref. Vous me dites quand je peux reprendre.
Vas-y, Béa, pardon.
Non, alors, plus léger, moi, j'aime bien Peur Primale.
Ouais.
Avec Richard Gere et avec Edward Norton. Que je trouve assez enfin voilà c'est de base après comme je l'ai dit en préambule de l'émission moi tous les films de procès je les aime hein, j'aurais pu mettre tout en référence hein mais je sais pas si ça peut rentrer dedans mais Ni juge ni soumise le documentaire sur la juge alors c'est pas un procès mais malgré tout c'est des gens qui et voilà qui ont eu un procès
on voit le système judiciaire
qui vont aller en procès c'est le système judiciaire
tu connais toi ça, Michel le massage prostatique.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça dedans. Mais regardez-le, mais on en a parlé. On a parlé dans le Parlons Péloche sur les films documentaires, mais c'est un.
Sur les films documentaires, donc vraiment, c'est fort. Après, moi, j'avais. Pareil, on en a un petit peu parlé, mais Présumé coupable, que je trouve. En fait, c'est sur l'affaire d'Outreau, pardon. Et pas du trou. L'affaire d'Outreau et en fait juste ce que je trouve dans ce film au niveau cinéma encore une fois sans parler de coupable pas coupable on sait pas mais c'est quand même ce côté apparemment en tout cas dans ce film là erreur judiciaire et c'est la violence en fait qui est présente et la destruction d'une vie et alors juste se dire s'il est coupable bah OK bah c'est la vie il a joué il a perdu. Par contre, s'il est innocent, c'est un truc de dingue. Enfin, voilà.
Et notamment donc, les scènes de prison dans ce film sont très glaçantes.
Alors moi, c'est pas du tout ça. Alors moi, bizarrement, tu vois, c'est la scène où les flics débarquent chez lui. C'est le début du film. Hein. Ils débarquent chez lui et lui débarque pour le coup. Et je trouve tout d'une violence extrême. Ouais. Enfin, voilà. Je trouve que c'est très bien fait. Alors après, Philippe Torreton, j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'avoue que je suis pas toujours objective dès qu'il y a un film avec lui. Mais voilà, j'aime beaucoup. Dans la fête, hein, de Nuremberg à Nuremberg. Film plutôt documentaire, mais sur les procès, le procès de, enfin, tous les procès de, bah, juste après la guerre, quoi, de tous les nazis.
Et c'était Dupont-Moretti à l'époque.
Et ça, c'est un truc. Mais je pense vraiment que on a souvent parlé hein, du devoir de mémoire, mais. Enfin voilà, celui-là, il faut le voir, c'est juste incroyable. Parce que là, voilà, c'est pas romancé, hein, documentaire. Et enfin, celui dont je veux parler absolument, qui est Au nom du père de Jim Sheridan. Un film de 93
avec Daniel Day-Lewis
et avec Emma Thompson. Et c'est juste une histoire de dingue. Alors là aussi, hein, c'est une erreur judiciaire avérée. Donc ça se passe en 73 ou 74 avec les événements avec l'IRA, donc ça se passe c'est des Irlandais qui sont en Angleterre au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui se retrouvent accusés d'avoir posé une bombe dans un pub, sauf que donc c'est deux gamins en fait, enfin deux mecs d'une vingtaine d'années qui sont là, qui ont rien à faire là. Ils se retrouvent dans l'affaire, et puis en fait toute leur famille se retrouve embarquée aussi et condamnée, et pendant 15 ans ils sont en prison à clamer leur innocence avec donc le père de Daniel Day-Lewis qui lui aussi est emprisonné, donc il se retrouve dans la même prison que son fils, il meurt en prison, et c'est un truc de dingue avec et donc les scènes de procès, donc c'est Emma Thompson qui joue leur avocate et qui doit prouver que non qu'ils étaient pas là. Enfin après je vous dévoile pas tout, mais il y a des, enfin c'est juste
le truc le plus horrible du film, c'est quand même U2 qui chante.
Mais enfin voilà, enfin c'est, après moi je trouve ça passionnant
t'as pas eu de soutien David,
l'Irlande et l'Angleterre, enfin c'est, je trouve ça
t'aurais dit les Cranberries,
c'est une histoire incroyable
YouTube, la BO du film.
Ouais. Comment?
In the Name of Love. Attendez, mais...
Ah ben oui,
ouais, non, mais David, clairement, si tu trouves U2 insoutenable, ce qui arrive va te détruire. On passe tout de suite aux pilules bleues, pilules rouges d'Antoine.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
T'avais fini, Béa?
Oui, je t'en
veux. Je suis désolé quand j'ai une bonne transition qui peut m'arriver, je ne peux pas
m'empêcher. Mais Thomas, c'est le talent, on ne peut pas couper le talent, c'est impossible.
C'est une vraie phrase, on ne peut pas couper le talent, je vais la laisser au montage. Par contre, on peut ne pas la voir. Antoine, est-ce que...
Oui, il a disparu. Ah non, voilà.
Antoine, alors, pilule bleue, pilule rouge, est-ce qu'à distance, c'est mieux ou moins bien que de près? Eh ben, c'est la réponse que tu vas nous donner tout de suite, Antoine, avec ton pilule bleue.
Sache-le, tu seras jugé, hein, Antoine.
Oui, ça c'est
sûr.
Ah, mais c'est pas
silence dans la salle
pour cette émission. Ah pardon.
Il a démarré.
Il a commencé.
Non mais on
prend le personnage.
Ah merde, on va pas le voir parce qu'il a son texte.
Mais chut, silence, j'ai dit.
Pardon.
Cher podcasteur.
Pardon, monsieur le président.
Chut.
Alors ils disent rarement chut, mais
l'avocat nul, l'avocat sans charisme.
Chut.
C'est pas le vocabulaire du procès.
Mais je parle.
Maître Verge.
Cher podcasteur, vous êtes accusé d'hérésie, de relapse et de sorcellerie afin de vous accorder un procès équitable, et dans les règles de ce bien vénérable pays de Pélochetan, vous allez être soumis au jugement ultime de pilule bleue, pilule rouge. Deux films, si je ne m'en valise, trouvez les bons et vous serez innocenté. Alors, les deux films choisis pour votre jugement seront Peur Primale et Accusada. Alors, Peur Primale, c'est Richard Gere
les
qui porte des robes pour défendre Edward Norton.
Je t'aime. Ouais. Je suis comme d'hab, hein, mais...
Peur Primale, c'est... Attends, il a perturbé.
Il suffoque.
C'est Richard Gere qui porte des robes pour défendre Edward Norton, qui est soupçonné d'avoir tué un archevêque. Et okay. Accusada, c'est la jeune fille au bracelet, mais en Argentine.
C'est bien résumé.
Faut rappeler qu'Antoine est dans un grenier depuis 2 heures. C'est important. C'est important.
C'est pas un grenier, c'est une mezzanine.
Oui. Et les rats, c'est des colocs.
Alors, c'est Richard Gere qui porte des robes pour défendre Norton, qui est soupçonné d'avoir tué un baron de la mafia des années 30.
Oula.
Le plus grand mafieux de tous les temps aux États-Unis?
Purpree Al Capone.
Bonne réponse de Béatrice.
Ah oui, c'était pas un film.
Ah bah non, mais on commence.
Elle sera là au montage, la musique, imaginez-la.
Ok, c'est du pas un film, c'était Al Capone, le personnage.
Oui, c'est vrai. Oh, il y a dû bien avoir un film qui s'appelle Al Capone quand même.
Oui, oui, probablement.
Ouais. Enfin, moi, j'étais sur Le Parrain, quoi, qui est un vrai film.
C'est la jeune fille au bracelet en Argentine qui est en procès pour l'assassinat du conservateur du Louvre qui a laissé derrière lui d'étranges symboles.
Accusa Da Vinci Code.
Oh là là, quelle bonne réponse de David et Thomas.
Ouais, c'est dur ça la musique.
Moi, l'ambiance.
Ah oui, c'est.
Alors, j'ai vérifié, il y a eu un film qui s'appelle Al Capone, c'est en stop motion, c'est en pâte à modeler.
C'est exactement celui dont je parlais. C'est Richard Gere qui porte des robes pour défendre Edward Norton, qui est soupçonné d'avoir tué 4 hommes ayant transporté un chargement de nitroglycérine sur 500 km de route.
Le salaire de la peur primale.
Oui!
Bien joué.
Très très bon film, Le Salaire de la Peur. Franchement, si vous n'avez jamais vu Le Salaire de la Peur avec Charles Vanel et Yves Montand, je crois, il faut absolument voir ce film.
Mieux.
Non.
On en parlera dans le Parlons Pénance.
Les films de camion.
Non, c'est pas mieux. Arrête.
Voilà. Je vais quitter, moi.
Salut Tristan, bonne soirée.
Salut, bonne soirée Tristan.
Alors, c'est la jeune fille au bracelet, mais en Argentine, pour le procès. Elle est en procès car elle a fait une prise d'otage le soir de Noël. Malheureusement,
Accusa Dayard.
Oh là là, Accusa Dayard. Très bonne réponse de Thomas.
Qui a hurlé, hein. Ouais. Il a hurlé, on est d'accord.
J'ai dû saturer une paire de fois aujourd'hui.
C'est Richard Gere qui porte des robes pour défendre Edward Norton, qui est soupçonné d'avoir tué Mitch Buchanan, le sauveteur en mer le plus classe des
États-Unis. Purpree Alert à Malibu.
Malibu. Putain.
Oui. La bonne réponse à Thomas, encore une fois.
Et
alors, le dernier.
J'aurais dit alerte à Purpree Malibu.
Non, mais alors, Tristan, il a tellement l'air de s'emmerder, mais là, on te voit bien, là. Hein. On te voit, ouais. on te voit bien, là. Tu t'emmerdes.
C'est en 4 tiers, non?
Tu parles de moi, là?
Ouais.
En tout cas, moi, ce qui est bien, c'est que mon micro va pas du tout saturer hein, sur les dernières parties.
Ouais.
Si tu peux en dire.
Ouais.
Là, t'es tranquille.
Au pire, tu alors, peux muter la... Antoine. Hein.
Mais peut-être qu'Antoine, son micro marche plus, hein, ce serait pas.
Ah, Antoine parle encore, là.
Ah, ouais. Oui, bah, il essaye.
C'est la jeune fille bracelet en Argentine qui participe au podcast Soap Opera de François Descraques.
Meurtre à Saint-Jacques-Zada.
Mystère à Saint-Jacques-Zada. Très bonne réponse de Thomas. C'est une victoire haut la main de Thomas.
Bravo Thomas.
Il est santé, vous êtes tous coupables. Vous me devez tous donc me payer un coup à boire après le confinement.
Bah moi volontiers Antoine.
Putain mais moi j'attendais Jacques-Zada.
Oui, non, mais je l'ai pas fait pour certaines raisons de politique.
Oh, ça va.
Bah ça va, ça va. C'est vite dit.
Et voilà, je vous félicite. Bravo à vous.
Merci Antoine.
Merci Antoine.
On va remercier surtout Verbaï, hein, qui a permis tout ça.
Notre partenaire.
Notre logiciel.
Notre partenaire, ouais. Ouais, voilà. Bye.
Notre partenaire Massard. Donc voilà, on espère que qu'on a réussi à reconstituer les j'ai envie de dire le fun habituel, hein, malgré le fait qu'on soit tous à distance. En tout cas, ça nous a fait du bien moralement et socialement de pouvoir se revoir dans l'équipe, hein. Enfin, je le dis avec un ton très enjoué, donc vous vous doutez pas de ma sincérité. Et j'espère qu'on a réussi à vous retransmettre.
Non mais
tout ça.
Moi j'espère que ça a enregistré surtout.
J'espère aussi. Ouais, il manquera peut-être un chroniqueur, hein, dans l'émission. qui aurait eu un appareil qui n'a pas enregistré, c'est possible. En tout cas, voilà, on a fait une petite sélection de films pour bien vous donner la patate. On espère que vous en avez appris plus sur le cinéma et sur vous-même aussi, c'est important. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les réseaux de podcast. Et en attendant, nous, on se dit à dans 15 jours pour une autre thématique, un autre genre cinématographique. Et en attendant, on n'essaye pas de se choper dans les
salles
parce qu'on ne peut pas. Donc, on essaye de se choper sur Skype
de distance. Hein.
Voilà. Ah, il s'adapte. Hein.
De distance.
Voilà. Allez, au revoir.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Tout.
Bon,
c'est pas du tout ça la musique de fin.
Ouais, pas l'oreille musicale, Béa.
C'est exactement ça, c'est un tout 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 tout.
Oui, c'est pas faux. Tous les, même les 4 saisons de Vivaldi, finalement, c'est tout tout tout. Voilà, donc bah générique les gars. Mais bon, voilà, c'est compliqué.
Il y a pas moyen que tu nous le mettes.
Non, malheureusement, j'ai pas de. Même là, vous allez pas avoir le bed. Du coup, vous allez voir que mon introduction est beaucoup plus triste sans le bed.
Alors, on va bien se faire chier.
Allez.
Non, c'est bien. Bon,
attention,
mais c'est
vous êtes prêts, j'appuie sur arrêter.
Ouais, moi aussi, j'appuie sur arrêter.